Boulevard 102.1.
Bienvenue à votre émission d'actualité du midi sur Boulevard 102.1. L'émission en jazz avec Jeff Fortin et Pascal CV. 418-971-101. Êtes-vous énervé pour le match de ce soir? Canadiens de Montréal, Lightning de Tampa Bay, sixième match de la série. Le Canadien pourrait imiter le Wild du Minnesota et les Ducks d'Anaheim qui hier ont réussi à fermer leur série 4-2 respectivement contre les Stars et les Oilers. Est-ce que le Canadien va l'emporter? J'ai prédit une victoire de 3-2. Je suis pas allé très hors norme parce que 4 des 5 matchs se sont terminés par le pointage de 3-2 depuis le début de la série. On en parle dans quelques instants avec Alex Laramé, notre chroniqueur sportif. BLVD.fm, c'est la façon de nous écouter via notre web radio. C'est nos meilleurs moments également. Et BLVD 102.1 disponible sur App Store, Google Play Store. Pour nous écouter, haut-parleur intelligent, vous dites écoutez BLVD 102.1 du côté de la météo. 9 degrés, la pluie est terminée. C'est nuageux à l'heure actuelle. Ça va se dégager tranquillement. Demain, 12 degrés, 60% de possibilité d'averse, mais on parle pas de grande accumulation. Et pour dimanche, c'est 11 degrés, alternance de soleil et nuages. La pluie va revenir en début de semaine prochaine. Pascal, t'es-tu énervé, Canadien Lightning?
Ben vous me faites plaisir. Donc, je trouve que c'est une belle énergie, c'est vraiment le fun.
Mais hein, on est très énervé. Alejandro qui a dit zéro énervé. Jean-Daniel qui te réclame un peu plus pour tes analyses du hockey des séries, Pascal.
Ah, avec plaisir. Avec plaisir. Non, mais je viens de livrer des stats avec Max sur tout ce qui est consommé à la hauteur des millions de dollars que chaque aréna récolte pendant les séries. Donc, c'était le fun, mais c'était pas une analyse, ça, c'est sûr.
C'était pas une analyse de
non,
match.
Non, je peux pas vous offrir c'est ça. C'est très décevant.
Une analyse de qui bouffe quoi puis boit quoi.
Oui, c'est vraiment plus en matal.
Ah, oui, puis quand on est énervé, ben, on mange, bon, on boit. Il n'y a pas de doute.
Puis vous dépensez 30 à 50 $ dans des genres de styrofoam. Fond de visage de joueurs qui se vendent au Centre Bell avec
exactement.
La petite chaîne en plastique.
Ah oui, oh, puis oui, on achète le verre souvenir.
Oui,
puis
oui.
Sur le fly, quand tu viens un gros match, à un moment donné, tu te dis « Ah oui, non, on m'a l'acheté le Audi à 125$. »
Pour faire rouler l'économie.
Ben, c'est ça. Écoute, ça m'est déjà arrivé à deux occasions. À Toronto pour les Jays, puis à Los Angeles pour les Lakers. Où là, j'étais tellement dans le match que je m'en vais à boutique souvenir, un Audi à 125$. « Ah ouais, sais-tu quoi? J'étais un fan des Jays, j'étais un fan des Lakers. Avoir sur le dos le Audi pour finir le match. » Après ça, tu te lèves le lendemain matin, tu dis « Ouah! » Peut-être que j'ai pris une petite IP à 12 piastres de trop. Je sais pas trop.
Tu le sens dans ton corps, sinon. Hey, Jeff, je dois mentionner très rapidement, sur la route, il y a un petit incident. Là. C'est accident sur la 20 Ouest à la hauteur de Taniata. Et ça a ralenti le secteur. Fait que je voulais juste le dire en début d'émission parce que les gens commencent leur heure de lunch.
Avant de parler à Alex Laramé de ce match Canadien Lightning ce soir, qu'est-ce qu'on doit suivre dans l'actualité?
Plusieurs choses. D'abord, une nouvelle pour notre tramway. Radio-Canada qui a pu confirmer qu'il y a une entente qui pourrait être officialisée d'ici deux semaines concernant le projet de tramway à Québec. C'est le financement fédéral du transport collectif qui a pris du temps, puis vous le savez, était bien complexe à avoir un petit peu plus de nouvelles là-dessus. C'est le nouveau ministre responsable des Relations canadiennes, Jean Boulet, qui envisage cette annonce-là dans un délai rapproché. Pour le provincial, Mme Fréchette, donc Christine Fréchette, qui croit avoir redonné un élan à la CAQ. Pour elle, ben, on remet le vent dans les voiles de la CAQ. 418-971-101, vous en pensez quoi?
Ouais.
Et elle se défend en disant qu'elle a débloqué bien des dossiers épineux qui étaient toujours là, coincés avec François Legault.
Mais du côté du transport, j'ai écrit à l'équipe de Joël Lightbound parce que, non, hein, M. Lightbound est censé passer en studio quand il fait une annonce comme ça. Il nous avait promis pour le financement du tramway. Alors, on m'a répondu, je te reviens rapidement. Donc, d'après moi, c'est vrai que ça s'en vient.
C'est aujourd'hui le 1er mai que le salaire minimum passe à 16,60 au Québec, augmentation de 50 sous. Le salaire à pourboire, lui, va passer de 12,90 à 13,30 $, c'est une hausse de 40 cents. Puis au total, là, c'est à peu près 200 000 personnes qui travaillent au salaire minimum permis par la loi. Donc, c'est un nombre qui est un peu de moins de 5% de la population de la province. Je pense que ça, c'est toujours fort apprécié. La Ville de Québec va annoncer aussi aujourd'hui un investissement de 6 millions de $ pour poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie de sécurité routière pour 2025-2029. Radio-Canada précise que c'est une somme de 2,88 millions de $ qui va être consacrée à des projets de corrélation corridors scolaires. Et bon, on va suivre ça, parce que c'est quelque chose qui fait bien jaser, là. C'est le genre d'histoire que tu te dis, ouais, c'est un cauchemar. Mm-hmm. Une quarantaine de patients qui vont avoir à subir des tests de dépistage du VIH puis des d'hépatite aussi, en raison d'un tournevis mal désinfecté au CHU de Québec. Donc, le CHU qui a confirmé ça au Journal de Québec, soit que l'instrument chirurgical est infecté de façon inadéquate depuis 2017. Heureusement, on dit qu'il était rarement utilisé, mais quand même, là, on va devoir faire plein de tests par principe de précaution, en ajoutant aussi qu'il y a un risque de contamination qui est jugée faible.
Oui, vraiment à surveiller. On s'en va rejoindre Alex Laramée en direct de Montréal pour discuter de ce match canadien Lightning, mais aussi des autres séries dans la Ligue nationale. Alex, es-tu bien énervé?
Ah, je suis tellement fébrile pour ce soir. Puis honnêtement, en m'en venant ce matin, on sent l'énergie là, dans la ville. Là. Honnêtement, ça va bouiller ce soir à Montréal.
Oui, bien justement, parlant de ça, est-ce qu'il y a plus de policiers? Est-ce qu'on a mis des barrières anti-émeute? Comment on a installé ça tout le tour du Centre Bell pour pas qu'il y ait de débordement?
Oui, bien, on a vu un peu là, dans les rassemblements, là, dans les différents matchs, là, on installe un écran géant là, devant la station Bonaventure, mm-hmm. qui est vraiment juste à côté du Centre Bell, puis il y a une grande foule qui regarde le match à cet endroit-là. Mais oui, il y a des barrières parce qu'on sait, là, dans les différentes années, là, notamment du côté de l'Allemagne, là, il y a eu beaucoup d'attentats avec des voitures béliers. Donc ça, on est très présent là, du côté du SPVM. D'ailleurs, on a fait une sortie ce matin là, parce qu'on se prépare. Évidemment, on a des chances d'éliminer Tampa Bay. Donc, ça donne des chances de débordement. Là, on se souvient, dans les années 2000, ce qui s'est passé après une série contre les Bruins de Boston.
Exactement.
Donc, on ne peut pas revivre. On ne peut pas revivre ça. Donc, non, le SPVM est préparé. On a des troupes qui sont là. Mais pour l'instant, dans les derniers matchs, ça s'est super bien passé. Mm-hmm. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Donc, évidemment, on appelle à l'intelligence des partisans du Canadien pour ne pas mettre la ville en feu ce soir.
Ah, exactement, chers partisans du Canadien. Victoire ou défaite, profitez de ce moment-là. C'est des moments de sport tellement intéressants. Tout le monde se rassemble. Tu sais, je pense que TVA Sport va prendre pas loin de 2 millions de téléspectateurs aujourd'hui, là, tellement les gens vont se rassembler dans des foyers puis vont vouloir regarder le match. Ça fait aucun doute dans mon esprit. Alex, moi, si j'étais Martin Saint-Louis, puis je veux pas lui donner de conseils parce que je trouve qu'il coach une méchante belle série, mais j'ai bien l'impression qu'il va garder le même alignement et la même combinaison de trio. Es-tu d'accord avec moi?
Ouais, moi, je pense qu'on s'enligne pas mal vers ça, mais c'est Connor Dobson, en fait, qui est un peu le X-Factor dans tout ça. Là. Ce matin, il s'est entraîné avec l'équipe, donc il était avec tous les autres joueurs. Il a commencé à prendre des tirs sur réception, donc les lancers frappés, parce que Connor Dobson, de ce qu'on comprend, il est blessé à un pouce.
Ouais.
Puis si vous avez déjà tenu un bâton, là, vous comprenez qu'un pouce, c'est pas comme les autres doigts. Là, c'est vraiment super important, puis on sait que Dobson, une de ses forces, c'est son lancer. Donc s'il n'est pas capable de prendre de lancer, ben un petit peu moins utile, là, Connor Dobson. Donc... Mais de ce qu'on comprend, les journalistes qui sont sur place, là, on s'attend plus à ce qu'ils soient peut-être disponibles pour un match numéro 7. Mais oui, ce soir, beaucoup de chances qu'on voit le même alignement, donc avec Gallagher et avec Anderson sur le premier trio.
Ouais, parce que si tu amènes Dobson dans l'alignement, c'est qui que tu sors? Parce que Struble et Jacky font vraiment un bon travail, honnêtement. C'est un duo de défenseurs que je me disais que le Lightning allait pouvoir bénéficier de leur largesse, c'est-à-dire une mobilité pas toujours présente dans les deux cas. Mais finalement, le physique des deux défenseurs fait en sorte que Tampa Bay n'a pas gain de cause quand ils sont sur la patinoire.
Non, c'est vrai qu'ils ont, une super bonne série. Par contre, il faut quand même le dire, le Jacky dans le dernier match, ça a été un petit peu plus difficile.
C'est vrai.
On ne se mentira pas, il est ciblé là, par les arbitres. Là. Il n'a jamais le bénéfice du doute. Mm-hmm. Moindrement, il a un petit geste. On va lui donner un 2 minutes.
Ça pénalise le temps en deuxième période sur Crozier. Un geste qu'on voit régulièrement de d'autres joueurs, c'est-à-dire échauffouré. Je prends le joueur par l'arrière. Et là, lui, a eu une pénalité pour rudesse, justement.
Ben ouais, puis tu sais, on a vu les gestes dans le dernier match. Kucherov qui donne des coups de bâton, tu sais, dans les chevilles. Ça, on n'appelle pas ça parce qu'évidemment, Kucherov, c'est un joueur vedette. Hein, on veut pas aller là.
C'était tout qu'un coup de hache à Zachary Bolduc. Je peux pas croire que ça n'a pas été puni.
Ben non, mais ça, c'est exactement. C'est par rapport au nom sur le chandail, pas par rapport au geste. C'est plate, mais c'est comme ça que les arbitres jouent avec la game. Donc, évidemment, si on avait à me demander si Noah Dobson rentre dans l'alignement, pour moi, c'est Jacky qui va devoir céder sa place, là, malheureusement. Mais pour ce soir, je pense qu'on va revoir un duo Struble-Jacky. Mm-hmm.
Cole Caulfield, ben, plusieurs parlent de son temps d'utilisation. Ça va varier selon comment le match va. T'sais. Est-ce que le Canadien va être en avance? Si oui, ben Caulfield va avoir moins de temps de jeu. Parce que les gens qui criaient au scandale que Nathan MacKinnon marquait trop de buts dans le filet désert. Ben, si Caulfield en marque pas, c'est parce qu'il joue pas bien défensivement. Donc, ça va être un Philippe Dano qui va prendre sa place comme le dernier match en troisième période, si c'est le cas.
Ben oui, tu sais, Martin Saint-Louis, on lui a posé la question d'ailleurs sur le temps d'utilisation de Caulfield, puis c'est exactement ce qu'il a dit, c'est une question de circonstance. S'il y a plus d'avantages numériques, ben le temps de jeu de Caulfield va augmenter. Même chose si en troisième période, on a besoin d'un but, ben là, le temps de jeu d'un Dano va diminuer, puis le temps de jeu d'un Caulfield va augmenter. Fait que c'est vraiment selon les circonstances, il ne faut pas s'inquiéter avec ça, mais c'est sûr qu'on aimerait ça que ça débloque un peu là, pour le premier trio. Mm-hmm. Je regardais ça. Nick Suzuki a quand même 5 points en 5 matchs, mais c'est 5 passes. Slavkovski, aucun point depuis le premier match avec son tour du chapeau. Donc, on espère que nos gros canons vont se lever pour sortir le Tampa Bay ce soir puis en finir avec cette série.
Oui, puis Nick Suzuki qui a eu son premier point à 5 contre 5 sur le but d'Alexandre Texier, mais il remet la rondelle à Lane Hudson pour aller changer. Fait qu'on s'entend que c'est une passe grattée, je vais dire comme ça,
ouais,
dans le jargon.
Au moins, moi, ce que je trouve avec Nick Suzuki, tu sais, on le voit quand même dans les matchs. Là. D'ailleurs, dans les matchs, il y a eu une belle séquence, là, une feinte, il a presque marqué là, sur un contre un. Mais Cole Caulfield, lui, est vraiment invisible. Là. On ne voit plus le joueur qu'on voyait, il ne prend pas des lancers. Souvent, on pense qu'il y a une ligne de tir, il va pour une passe, ça attend une seconde de trop. Il faut qu'il se fasse confiance, il faut qu'il tire mm-hmm. au filet. Un Cole Caulfield qui marque souvent, c'est un Cole Caulfield qui va diriger 10, 11 lancés vers le filet. C'est ça qu'on veut voir ce soir, du meilleur marqueur là, dans la saison du Canadien.
Oui, il revient beaucoup sur lui-même aussi en zone offensive. Bon, moi, je suis allé très conservateur. J'ai dit une victoire de 3-2 du Canadien ce soir. J'aime vraiment pas de la façon que le Lightning de Tampa Bay a joué dans le cinquième match. Je sens que c'est une équipe où il se passe des choses à l'interne. Même Brendan Hagel a parlé aux journalistes, puis on voyait que ça s'adressait à Nikita Kucherov. Donc, je pense que le Canadien, qui est très uni, va réussir à l'emporter. Alors, j'y vais avec un score de 3-2 pour le Canadien. Je pense que le but gagnant va être de Josh Anderson qui connaît une excellente série. Alex Laramé, ta prédiction?
Moi, honnêtement, je veux pas être rabat-joie, là, mais je pense que le Lightning là, va survivre ce soir. Là, puis ça fait 4 matchs de suite que c'est 3-2. Fait que je pense que la logique voudrait que ça va être encore une fois 3-2 ce soir, mais je vois vraiment une prolongation. Là. Selon moi, ça va être vraiment serré ce soir. C'est avec une bataille de tous les instants. Mais oui, probablement. Bon, probablement. Moi, je vais dire victoire de Tampa Bay 3-2, puis on gagne ça dans le match numéro 7.
Écoute, ce qui est vraiment pas une mauvaise prédiction, tant qu'à avoir Pascal CV avec nous autres, on va lui demander, Alex Laramé.
Pascal!
C'est quoi ton score, puis qui gagne à soir, Pascal?
Hey, pour vrai, là.
Bonne question.
J'ai aucune idée.
OK. Dis 3-2, vu que ça a fini 4 matchs sur 5, on finit 3-2.
Tu veux que je dise quelque chose qui est déjà arrivé?
Ouais.
3-2.
3-2, pour qui?
Nous.
3-2.
Ouais.
3-2 Canadiens. Et voilà.
Je veux que vous soyez encore heureux. Ben, je sais que Jeff, c'est pas ton équipe. Là,
ouais,
mais
c'est pas grave. Mes gars sont heureux. Là, écoute, j'ai vraiment décroché du fait que. De cette haine-là, parce que là, mes gars sont heureux. Tout le monde est heureux autour
ça
de moi.
Ça met tellement de belle ambiance. Moi, je trouve que l'atmosphère là, est vraiment le fun.
Ah oui, les auditeurs sont heureux. Ouais. Tout le monde est heureux. Fait que là, à un moment donné. Bon, je m'ennuie de mes nordiques, mais il faut que je décroche, faut croire.
Oui.
Vous, votre
passé.
Prédiction, 418-971-101. Alex, je veux qu'on prenne encore quelques minutes pour parler des autres séries, notamment les Oilers qui ont été éliminés hier. Fait quoi avec les Oilers d'Edmonton? Parce qu'il reste juste 2 ans au contrat de Connor McDavid.
Ah non, il faut bouger du côté des Oilers. Je pense que la première décision, c'est de congédier Stan Bowman. Je veux dire,
Le gars, directeur général de l'équipe en passant.
Oui, exactement. Puis je pense qu'on n'a pas regardé très loin là, la décision d'aller chercher Tristan Jarry. C'est une décision qui te fait perdre ton emploi. Stuart Skinner, tu sais, pour tous ses travers, son contrat finissait cette année. Là, on est allé chercher un Tristan Jarry qui gagne plus d'argent, qui est encore en contrat pour 2 autres saisons puis qui ne livre pas les performances. Si je suis l'organisation des Oilers puis j'essaie de vendre à McDavid qu'on veut gagner une coupe, le premier mouvement que je fais, c'est de congédier justement le DG, d'amener une nouvelle voix, quelqu'un qui va voir ça différemment puis qui va bouger immédiatement parce que on peut pas se permettre de gaspiller ces années-là de Connor McDavid. C'est le meilleur joueur de la Ligue. Il va finir par gagner une coupe. La question, c'est est-ce que ça va être à Edmonton ou ça va être ailleurs? Faut bouger du côté des Oilers parce que on a tellement de beaux talents puis de ne pas être capable de gagner une coupe, ça n'a aucun bon sens.
Je suis clairement d'accord avec toi. Puis même s'il reste 2 ans de contrat, pour bien l'expliquer à nos auditeurs, il faut bouger vite du côté d'Edmonton parce que c'est pas le temps, quand il va juste rester une année de contrat, d'être dans cette année-là où tu vises le tout pour le tout. Parce que si ça ne fonctionne pas puis McDavid signe ailleurs, tu vas l'avoir perdu pour rien. Fait que c'est l'an prochain que les Oilers se doivent de viser le tout pour le tout. Le Wild du Minnesota, il met les Stars hier. Alex, Quinn Hughes, le défenseur qui était avec les Canucks de Vancouver, c'est la plus grosse acquisition de la saison. Quel match encore hier?
Ah oui, tu sais, il a prouvé pourquoi Bill Guérin a échangé l'équivalent de 4 choix de première ronde. D'ailleurs, pour moi, Bill Guérin, c'est lui qui va gagner le titre de DG de l'année. Là, je veux dire, aller chercher un top 3 défenseur dans la ligue, c'est pas à chaque année qu'on peut faire ça. Puis là, on voit que ça amène Minnesota à un autre niveau. Le problème, c'est que là, ils vont faire face au Colorado. Hein. Fait que ça va être une série, encore une fois, qui va être difficile. Confrontation Kyle McCarr, Quinn Hughes, par exemple, ça va être super intéressant.
Ah, t'as tellement raison.
On a hâte de voir ça.
Exactement, on l'a vu, on a eu un beau prélude avec la finale des Jeux olympiques où les deux joueurs avaient disputé un fort match, autant pour le Canada, McCarr, que Hughes pour les États-Unis. Deux autres matchs ce soir, les Sabres contre les Bruins. Les Sabres mènent 3-2 dans la série. Bon, hier, je me suis complètement trompé en disant qu'on allait survivre du côté des Stars et des Oilers. Mais là, je suis convaincu que je me trompe pas. Les Sabres vont mettre fin à la série. Jeremy Swayman pourra pas sauver tout le temps ça.
Ben écoute, c'est sûr que Buffalo en ce moment, ils ont le vent dans les voiles, puis on leur reprochait leur manque d'expérience, mais ils ont quand même su se lever dans cette série-là. Donc même, moi j'espère que Boston va gagner, parce que j'aimerais ça une ronde 2 avec Canadiens-Boston, là, ce serait le fun, mais selon moi, Buffalo va l'emporter ce soir aussi.
Par contre, je vois un match numéro 7 pour dimanche, et ce sera le Mammouth de Utah, parce que je suis convaincu que Utah bat les Golden Knights ce soir dans un autre match serré. Là, la plupart des matchs se terminent par un but ou en prolongation, là aussi. Mais je vois le Utah pousser Vegas en 7e match.
Moi aussi, j'avais pris Utah en 7, là, fait que je vais m'en tenir à ma précision. Voilà. Ça va être intéressant de voir parce que dans la première ronde des séries, depuis les années 2000, il y a seulement 2 années, en fait 3 années, qu'il n'y a eu aucune série qui s'est rendue en match numéro 7 dans la première ronde des séries. Fait que les statistiques nous disent qu'il y a au moins une série qui va se rendre au match numéro 7. Est-ce que c'est la série du Canadien, Utah? Mais ce soir, on va avoir toutes nos réponses, ça c'est sûr.
Exactement, il y aura un match qui va se rendre là. Et pour les amateurs de hockey, samedi, prenez note que la série Flyers-Hurricanes débute. Donc, série de 2e ronde, c'est à 20h. Ça va être sur les ondes de TVA Sport. Alex, rapidement, moi je vois les Hurricanes dominer cette série-là. Je vais avec les Hurricanes en 5 en raison de leur expérience.
Ouais, j'ai la même prédiction, Caroline en 5, puis le calendrier de la LNH, c'est un peu bizarre. Là. Eux commencent, ça pourrait être une série rapide, puis là, après, on pourrait avoir des séries qui vont aller jusqu'en 7. Donc, ça pourrait donner un grand avantage là, pour les Hurricanes en vue de leur parcours éliminatoire.
Exactement, on fait ça en raison du contrat de télévision qui ESPN, qui est relié à ABC. Le match aux États-Unis sera sur ABC samedi. Donc, Money Talk du côté de Gary Bettman. Alex, je te souhaite un excellent match ce soir. Profites-en, t'es à Montréal. Amusez-vous en gang. Profitez de ce moment-là, des moments sportif comme ça, c'est toujours plaisant. Et on se reparle lundi très rapidement dans l'émission d'En Jazz.
Certainement. Bon match à tout le monde.
Salut, Alex Laramée, chroniqueur sportif pour nous et journaliste au 99.5 Montréal.
On en jase à Boulevard 102.1.
Bon, Pascal CV.
Dis-moi.
J'ai laissé ma haine de côté sur le Canadien de Montréal. Je pensais jamais dire ça, mais c'est comme ça. Il y a trop de monde heureux autour de moi, puis moi, je suis un good guy.
On peut pas être contre la vertu, là.
Fait que là, à un moment donné, je peux pas être toujours marabout pendant que les autres sont heureux. Ça va pas du tout avec mon trend de good vibes only. C'est dur, c'est pas toujours facile. J'écoute les matchs des fois, puis je me dis « Oh, you don't t'aime pas bien. » Puis là, le Canadien score, puis j'ai un petit serrement dedans. Mais là, je vois mon Edou, mon Elliott être heureux avec leur chandail du Canadien, puis je fais « OK, le père. » Parle pas. Souris.
Embarque dans le train.
Embarque, exactement. Et c'est ce que je fais. Mais là, il y a une chose, par exemple, qui me fait vraiment, mais vraiment pas sourire. C'est les peines. Les peines au niveau de la justice.
Ouais.
Ces peines bonbons-là, ces peines clémentes, ces peines Netflix. Puis d'ailleurs, 418-971-1021, Êtes-vous tanné d'entendre toujours ça? Mais ça, on l'entend à répétition, mois après mois après mois. Je me trompe-tu?
Ça commence, tu sais, dans les années de l'arrêt Jordan, là, où on trouvait ça de plus en plus difficile, puis qu'on voyait qu'il y avait des dossiers qui passaient sous la couverture, puis finalement, des criminels se retrouvaient en pleine société sans avoir payé leur peine à la société. Puis de plus en plus, on dirait que ça vient à nos oreilles, ce genre de peine bonbon, là.
Exactement. Et là, bien, c'est le groupe Québécois, donc Journal de Québec, Journal de Montréal, qui va faire un dossier ce week-end là-dessus sur des peines bonbons. Ils ont déjà commencé à délivrer des articles. Ils en ont délivré deux. Le premier cas qui est mentionné, c'est le cas de Coralie Diablo, 20 ans. Diabo, 20 ans. Donc, une jeune femme de Maniwaki qui a justement fait un accident. Alcool au volant. Elle a tué une de ses meilleures amies. La couronne réclamait entre 5 à 6 ans de pénitencier parce que c'est une récidiviste de l'alcool au volant. Et au moment de faire l'accident, son permis était révoqué en raison, justement, puis là, je vais prendre cette expression-là, qu'elle avait pété une balloune. Ouais. Et finalement, c'est une peine à domicile de 2 ans parce que le juge a conclu qu'à son jeune âge, ça ne méritait pas d'aller en prison pour qu'elle puisse justement se refaire en quelque sorte une santé mentale et qu'elle apprenne de ses erreurs. Mais tu sais, il y a des erreurs qui font moins mal. Là. Exemple, j'ai échappé un plat par terre, il s'est cassé. Puis il va falloir que je ramasse la vitre et la nourriture qui est par terre.
Ou j'ai volé un paquet de gomme au dépanneur.
C'est ça. Mais il y a des erreurs où ça coûte la vie à des gens, des jeunes filles dans la vingtaine. Je suis pas du tout d'accord, moi, avec ce genre de peine-là.
C'est très difficile. C'est émotivement difficile. D'autant plus que dans la voiture, entre autres, une des victimes, une des filles qui est décédée, elle a crié de ralentir. Puis elle était tellement terrorisée par la conduite qu'elle a écrit à son copain que ses amis conduisaient comme des vrais malades. Elle dit « Si je meurs, je t'aime. »
Ben,
il a clairement identifié la problématique puis elle a dit à ses amis qu'il fallait ralentir. Fait qu'en plus, on ne l'a pas écouté.
Exactement. Donc, il y a vraiment, premièrement, un comportement déviant chez la jeune dame de 20 ans, Madame Diabo, parce qu'il y a récidive. Il y a comportement déviant parce qu'il y a quelqu'un dans la voiture qui dit « Hey, ma sœur, on roule trop vite, ça n'a pas d'allure. » D'ailleurs, elle a percuté un arbre à 150 km/h dans une zone de 50, donc on s'entend. La marge était très longue. Et là, parce qu'elle a 20 ans, tantôt j'entendais sur les ondes de Mario Dumont une avocate spécialiste dire « Je pense que le côté autochtone a joué également. » Bien, on l'envoie à la maison, mais cette femme-là a de très gros risques de récidive, selon moi, parce que, justement, il n'y a pas une conséquence appropriée à l'acte qu'elle a fait.
Puis c'est surtout que j'ai moins confiance, puis surtout par la pénurie de main-d'œuvre, surtout par la difficulté à appliquer certaines choses, puis c'est dans le après quelles ressources elle va avoir autour d'elle. Si vraiment on croit que cette peine-là d'être à la maison prévaut là, sur d'autres choix de société, soit qu'elle est en prison ou quoi que ce soit, est-ce qu'elle est encadrée à la mesure du pourquoi elle est à maison?
En effet.
Est-ce qu'on la suit?
C'est un excellent
point. Est-ce qu'elle est en thérapie? Est-ce que ça fonctionne? Mm-hmm. Est-ce qu'elle collabore? Est-ce que ça avance? Ce qu'on a dit, c'est que c'était même difficile du côté des remords hein, pour la jeune femme qui a tué ses amis. Donc, pour les parents de celle qui est décédée, t'sais, ils l'ont dit, là, c'est difficile parce que c'était sa meilleure amie. Mm-hmm. Fait qu'on est dans des mélanges d'émotions face à ça. On sait qu'elle l'aimait, là, notre fille, mais là, elle est morte pour des choix de vie égocentriques. Puis en plus, ben, dans la lettre d'excuse de l'accusé, on a vu de l'égocentrisme, on a estimé qu'elle ne prenait pas tout le poids de la culpabilité derrière son geste. C'est fascinant, ça aussi, là.
Très fascinant. Donc, une jeune femme qui est récidiviste de l'alcool au volant, qui tue son ami en roulant 100 km/h plus haut que la vitesse permise, qui émet à peu près aucun remords dans sa lettre d'excuse, évite la prison. C'est très questionnant à savoir où est-ce qu'on en est rendu avec notre système de justice, honnêtement. Ça, c'est vraiment une situation qui me fend le cœur. En tant que parent, j'oserais pas imaginer moi, qu'un de mes enfants, à un moment donné, meurt dans un accident de voiture parce qu'il a embarqué avec un de leurs chums qui était trop chaud. Puis le chum fait « Ouais, c'est mon ami, je l'aimais, mais t'sais, comprenez-moi, hein, je suis né parce que ça a fait partie justement de sa défense. Je suis né dans une famille où il y avait de l'abus d'alcool, donc pas de ma faute. » sais, se déresponsabiliser en plus. Alors, je trouve ça très, très, très dur. Puis l'autre cas, ben, on parle là, à présent d'un harceleur, justement, par écrit, qui n'arrêtait pas d'harceler par texto et par courriel une chirurgienne et également une travailleuse sociale. C'est dans le domaine de la santé. Puis, on l'a laissé en liberté, on l'a pas envoyé en prison, on l'a laissé avec un téléphone, il a continué à récidiver. Il a même été à l'encontre, là, justement, de ses conditions. Et là, finalement, parce qu'il est allé à l'encontre de ses conditions, il y a eu 9 mois de prison. Mais crime qu'on pense pas aux victimes là-dedans qui reçoivent des messages haineux jour après jour.
Qui stressent. Jour
ouais,
après jour.
Puis ça demande, coudonc, il va-tu être là? Ouais. Quand je vais sortir de l'hôpital, il va-tu être là à m'attendre avec un couteau, ouais, avec un gun? Il va-tu me tuer?
Qu'est-ce parce que les menaces, c'était crève en enfer. Fais-toi écraser par un 10 roues. T'sais, j'ai envie de venir à Montréal vous tuer. C'est pas rien, là.
Non, exactement. Puis, je suis certain que tu vas être d'accord avec moi. Puis, tu me le dis si t'es pas d'accord. Mais à donner ces peines clémentes-là, bon, on laisse encore plus de place à la violence dans notre société.
Ben, je pense que pour certaines personnes qui voudraient utiliser ce moyen-là pour faire valoir leur point ou encore faire un coup d'éclat, se venger, peut-être que c'est un petit peu moins. Comment dire? Peut-être que tu es tenté parce que tu te dis que tu ne seras pas vraiment puni, là.
Non, exactement. Donc, tu vois, puis c'est ce qui ressort par texto là, à l'heure actuelle. Là. Hey, elle devrait aller en prison, peu importe si, si elle est autochtone ou non, elle devrait être en prison. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Par contre, il est important de prendre en considération qu'une peine à la maison n'est pas nécessairement plus facile qu'une peine de prison. C'est des peines qui comprennent beaucoup de conditions restrictives et les personnes sont soumises à des peines de 2 ans, tandis qu'en prison, elles ont l'opportunité de sortir au 2/3. Oui, il y a de la restriction en effet, mais je sais pas, moi j'ai encore dans la tête, Pascal, que si je t'envoie en prison, ça a un impact, la prison. Me trompes-tu?
Ben ça dépend, là. J'ai l'impression que ça a de moins en moins d'impact parce qu'il y en a qui font leur loi entre les murs, mm-hmm, de la prison. Fait que là, ça aussi, on a un autre problème parce que tes envois, mais est-ce que tes encadres, est-ce qu'ils ont moins de privilèges que ce qu'ils sont supposés d'avoir en société? Là, il y a ça aussi, là. Parce que même si t'es envoyé en prison, il faut aller voir c'est quoi leurs avantages. Il y a tellement d'affaires à rectifier dans le système de justice là, pour qu'au moins on y croit, au moins que ça soit dissuasif dans tes comportements au quotidien. En plus, il y a une élévation de la tension. Les gens sont de plus en plus fâchés. Mm-hmm. On a de moins en moins de facilité d'avoir des débats. Il y a un ramassage d'émotions qui ne se contrôle pas. Il y a beaucoup d'affaires à traiter, là.
En effet. Puis je conclue avec un de nos auditeurs qui nous écrit. Tu vois, Jeff, un de mes amis, deuxième ballon est passé devant le juge, j'ai comme sentence, 5 fins de semaine en prison, perte de permis, ballon dans sa voiture, là, le fameux émetteur buccal là, que tu dois souffler. Finalement, après 2 fins de semaine de prison, il s'est fait dire, bah, pas besoin de faire les 3 autres fins de semaine, du gros n'importe quoi, les sentences, je suis fâché. Et en plus, mon ami dit, j'ai pas de problème d'alcool, juste pas capable de m'arrêter quand je commence. Ouais, c'est peut-être un problème en soi si t'es pas capable de t'arrêter quand tu commences.
La déresponsabilisation en société. Puis mettons, on va dans des gros cas criminels, OK? Oui. Mais allons-y au jour le jour, au day-to-day, là. Même dans des... J'ai l'impression que les gens qui se déresponsabilisent sont souvent vus comme étant ceux qui sont corrects au final. Ouais. Ceux qui vont prendre leur tort, mettons en relation là, ou au travail ou quoi que ce soit, ceux qui vont assumer leur tort et tout ça vont être vus comme « ben oui, c'était ta faute finalement parce que t'es capable de les avouer ». Fait que littéralement, c'est toi qui crée le problème.
C'est tellement drôle. J'aime tellement ça que tu amènes la discussion là-dessus parce que moi, je dis toujours, je suis quelqu'un qui s'excuse facilement. Mm-hmm. Parce que je suis quelqu'un qui est capable de reconnaître mes torts.
De te remettre en question.
Ouais. Mais quand je me retrouve dans une relation avec quelqu'un qui est jamais capable de s'excuser.
La personne s'élève.
Oui, et j'explique souvent ça à la personne. Je dis toujours, hey, écoute, tu fais autant d'erreurs que moi. La seule différence, c'est que moi, je te les admets, puis toi, tu les admets pas. Et je trouve toujours ça difficile de vivre cette espèce de débalancement-là où la culpabilité te revient régulièrement juste parce que tu as le courage d'admettre que tu as fait une erreur.
Pis toi, tu grandis là-dedans. Mais même si c'est positif pour toi là, d'être comme ça, puis d'être capable d'admettre tes torts, puis de devenir une meilleure personne jour après jour, la personne qui se déresponsabilise, je ne comprends pas pourquoi elle gagne sur l'autre.
Non, en effet.
Puis on le voit dans tellement de scénarios. Fait qu'en plus, quand en cours, cette personne qui se déresponsabilise de ses gestes qui, somme toute, sont criminels, là, quand t'es rendu coupable, gagne dans notre système de justice, qu'est-ce que ça donne comme ton sur notre société?
Exactement. Tu sais, moi, si j'avais été Madame Diabo, je serais arrivé puis j'aurais dit « Envoyez-moi en prison, je suis coupable d'avoir tué mon ami. » Puis je serais allé en prison.
Je pense que pas beaucoup de personnes le feraient.
Non, non, non.
Mais la réponse à un geste criminel devrait toujours être les conséquences du système judiciaire qui sont appliquées.
Continuez à nous écrire 418-971-1021 sur ce que vous pensez de ces peines Netflix ou ces peines à la maison ou ces peines trop clémentes pour des gens qui ont commis l'irréparable. Vous êtes très, très, très intéressant à lire. Merci Pascal CV pour cette discussion. Et on va avoir une très bonne discussion après la pause aussi parce qu'on va parler avec Sophie Durocher, oui. Chroniqueuse Journal de Québec, Journal de Montréal, également animatrice TV. Excellente chronique aujourd'hui dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, où elle parle d'un étudiant de l'UQAM qui s'est ramassé dans un cours littérature
oui.
féministe. Puis lui, tu sais, il a pris ça, c'est un cours option, il est étudiant en littérature, je vais aller dans ce cours-là. Et là, il s'est fait imposer l'écriture inclusive. Il est obligé d'utiliser le YEL, ainsi de suite. Il est allé voir l'université, puis il a dit, ça n'a pas d'allure. Si j'écris pas de même, je perds 5%. Sophie Durocher trouve que ça n'a pas d'allure. On jase avec elle parce qu'elle a parlé avec cet étudiant-là immédiatement après la pause. Merci beaucoup d'avoir participé en si grand nombre à notre discussion sur les peines trop clémentes pour des récidivistes d'alcool au volant ou encore des harceleurs. Vous avez réagi au 418-971-1021. Un bon texto qui est rentré durant la pause. Ne pas dormir dans son lit. Être dans un environnement strict avec un horaire entouré de gens criminels, pas vraiment la même chose qu'une peine à la maison. Je trouve ça intéressant.
Oui, puis tu sais, j'ai toujours de la misère à moi juste cracher sur le fait qu'on souhaite y aller avec la réinsertion sociale aussi, donc plus le psychologique, oui. Essayer de comprendre là, en arrière. Mais je pense qu'en ce moment, le problème dans la société, c'est qu'on a quelque chose de tout blanc ou tout noir.
En effet.
Puis on a de la misère d'aller appliquer quelque chose dans une zone grise, de dire, bon, ben tel malheureusement geste, c'est criminel et tu dois payer pour ton geste criminel qui impacte d'autres personnes pour qu'on donne aussi l'exemple en société. Mais on est capable de comprendre ton passé trouble pour telle raison. Fait qu'on va aller t'aider d'une manière qui diffère un peu d'un geste qui est juste foncièrement méchant, basé sur absolument rien et ou une grande vengeance.
Oui, mais il y a une différence entre être vraiment, vraiment clément. Puis l'aide pas pantoute. Je pense que c'est cette espèce de centre-là qu'on a perdu.
Puis au moment où on est en train de se rendre compte qu'on prend plus soin des criminels que des victimes dans les situations, ça part.
Oui. Parlant de se perdre, cette semaine, on s'est rendu compte, puis même depuis la fin de la semaine passée, on s'est rendu compte qu'il y a une certaine gauche sur l'échiquier politique qui s'est perdue. Tu te souviens, vendredi dernier, on a parlé du documentaire Génération Trans de Jean-Pierre Roy qui a été annulé au cinéma Cartier ici à Québec parce que le cinéma a reçu des menaces. Cette semaine, on a parlé de la librairie La Liberté qui a reçu des menaces parce qu'ils ont reçu Éric Duhaime pour le lancement de son livre sur l'autonomie du Québec. Soit dit en passant, la librairie La Liberté avait reçu le mois précédent Ruba Gazal avec son livre justement sur la souveraineté du Québec et l'immigration. Et là, je suis tombé hier soir, juste avant de me coucher, sur une chronique de Sophie Durocher. Elle parle de son étoile de la semaine, qui est Maxime Tremblay-Godet, un enseignant au baccalauréat en études littéraires à l'UQAM. Lui, il s'est inscrit à un cours littérature contemporaine des femmes et s'est retrouvé avec le fait que dans son cours, ça, c'est pas anormal, il y avait un 5% de la note qui était allouée à la qualité du français dans ses travaux. Par contre, dans la qualité du français, on devait utiliser l'écriture inclusive, c'est-à-dire le YEL, le TOUST, le CELE, le AUTRICE, etc. Donc, jamais mettre de masculin ou de féminin. Et l'étudiant en question, Maxime Tremblay-Godet, fait des représentations auprès de l'UQAM. Et c'est exactement ce que Sophie Durocher nous explique dans sa chronique. Et ça tombe bien parce qu'on a Mme Durocher au bout du fil. Sophie Durocher, comment vas-tu?
Ben, je vais très bien. Et vous deux, vous allez bien?
Ben oui, on va super bien.
Merci.
Fait beau à Québec présentement. Là, le ciel va se dégager. Quelle température fait à Montréal?
Une température de chiotte, là, il fait 10 degrés, on gèle, on a froid, on est écœuré. Mais je dirais que la température politique, surtout, est très difficile à Montréal, parce que les deux exemples que tu viens de donner, mais en fait, la température politique sur l'ensemble du Québec, parce que l'exemple que tu as donné du cinéma Cartier puis de la librairie La Liberté, sont deux exemples quand même de gauche qui dérapent complètement. Puis ce qui se passe à l'UQAM, c'est un moyen dérapage. Quand tu dis qu'un étudiant ou une étudiante se fait pénaliser, c'est de ça qu'on parle. Tu sais, à l'université, là, avoir, maintenir une bonne cote, puis avoir des bonnes notes pour avoir ton diplôme à la fin, puis ça, c'est hyper important. Chaque pourcentage de tes notes compte. Mais là, l'UQAM dit à ses étudiants, dans ce cours-là, en tout cas, si vous n'utilisez pas le petit catéchisme de la gauche, si vous ne dites pas « celle-le », puis « auteuriste », puis « étudiant.t.e.s », on vous enlève des points. C'est complètement débile, et je pèse mes mots, parce que qu'on dise « la qualité du français, c'est important », ben oui, si tu écris « j'ai mangé er », ben c'est normal qu'on t'enlève des points. Mais là, on est en train de dire à des étudiants « on va vous pénaliser si vous ne faites pas vous-même des fautes de français ». Parce que utiliser des expressions comme « auteuriste », là, c'est même pas dans le dictionnaire, c'est des lubies de la gauche et c'est complètement ridicule. Donc, c'est pour ça que j'ai décerné mon étoile de la semaine, parce qu'on est dans la fièvre des séries, mon étoile du match à Maxime Tremblay-Godet. Puis, je veux préciser, Maxime, là, c'est un jeune étudiant, il vient de finir à l'université, puis je le trouve très courageux, parce que dans un domaine comme l'UQAM, lui a décidé de porter plainte à l'institution, mais pour lui, c'est hyper important que personne s'en prenne à la prof. Parce que lui, il veut pas qu'on se retrouve dans la même situation. Vous vous rappelez, il y a quelques années, à l'Université d'Ottawa, il y avait une chargée de cours, Mme Lieutenant Duval, qui s'était fait ramasser, avait même fini par perdre sa job parce qu'elle avait utilisé le mot en haine. Mm-hmm. Puis Maxime, il dit, ben c'est pas parce que la gauche est niaiseuse que nous, qui sommes plus, mettons, de centre ou plus de droite, qu'on va faire les mêmes erreurs. Donc, lui, il veut absolument pas partir une chasse aux sorcières contre cette professeure-là. Je tiens à le préciser parce que c'est super important pour lui que les gens critiquent l'institution qu'est l'UQAM et non pas la professeure qui a pris cette décision-là. C'est important de le mentionner.
Ah oui, très bonne mise en garde, Sophie. Par contre, il peut y avoir une professeure qui dérape. On est dans la société. Oui. Ça arrive dans n'importe quel corps de métier. Cependant, Maxime a fait 3 plaintes à l'UQAM et les 3 ont été rejetées. Et il t'a dit, je le cite, « Quand l'université approuve qu'une prof exige l'écriture inclusive et enlève des points si tu ne le fais pas, elle nous dit... Voici la manière vertueuse de s'exprimer. Si tu es contre l'écriture inclusive, tu es contre la cause elle-même, donc tu es misogyne. » Et c'est là que ça devient dangereux.
Tu as tout à fait raison, puis je suis content, en effet, parce que selon moi, c'est la phrase la plus importante de toute ma chronique. C'est le sentiment, parce que moi, quand j'ai fait mon entrevue avec Maxime, c'est vraiment ce qui ressortait. Lui, il disait, tu sais, le premier cours, la prof te dit, si tu parles pas le petit catéchisme gauche de l'écriture inclusive, si même dans tes présentations orales, tu ne parles pas de cette façon-là, moi, je vais te pénaliser en t'enlevant des pourcentages de points. Lui, ce qu'il dit, c'est que dès le premier cours, ça crée une atmosphère où lui s'est senti que, regarde, moi, je vais me fermer la gueule pendant tout le cours, pendant toute la session, là, voir moi que je vais lever la main puis que je vais m'exprimer dans cette classe-là, alors que si j'utilise auteur au lieu de dire auteuriste, je vais me faire enlever des points. Ben, il dit, je préfère me taire dans ce cas-là. Surtout qu'il y avait 70 élèves dans la classe, 65 femmes. Lui était un des rares gars dans cette classe-là. Donc, moi, je trouve que c'est un signe d'ouverture de sa part de prendre justement un cours de littérature contemporaine des femmes. On peut pas dire que ce gars-là, c'est un macho ou c'est un gars qui est fermé à la réalité des femmes, comprends-tu? Mais lui, il se fait dire, si tu utilises la règle, qui est une règle commune en français, que le masculin l'emporte sur le féminin, pour des raisons historiques qui datent de plusieurs décennies, pour ne pas dire plusieurs siècles, ben tu vas être considéré comme un apôtre du patriarcat. Parce que un autre point important dans ma chronique, c'est que lui, il dit 2 choses. Il dit, quand je suis arrivée au début, on m'a dit, ben on va t'enlever des points si tu n'utilises pas cette écriture-là. Mais la prof leur a remis un guide d'écriture inclusive. Écoute, dans ce guide-là, là, c'est pas un guide juste de l'OQLF, là. C'est un guide militant. On nous dit qu'il faut enrayer certains traits patriarcaux ou hétéronormatifs de la langue française. Sais-tu ce que ça veut dire, ça, hétéronormatif? Moi, je suis plus capable d'entendre ce mot-là. Hétéronormatif, ça veut dire que la société vilaine, très vilaine, dans laquelle on vit, est faite pour les hétérosexuels, puis que si t'es pas un hétérosexuel, t'es victime de discrimination. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la langue française qui est hétéronormatif?
C'est une excellente question.
En quoi la langue française est vilaine pour les homosexuels? J'ai vu ça nulle part, moi, là.
C'est quoi le risque que ça puisse déraper? Ou c'est quoi le risque que, par exemple, on prenne pas le bon chemin pour ce genre d'activité-là scolaire, dans le sens où si ça avait été un atelier où on pratique l'écriture inclusive, est-ce qu'on y verrait moins quelque chose de peut-être un peu fermé?
Bien, t'as tout à fait raison, c'est un très bon point. Le problème, c'est que c'est pas justement un atelier isolé, c'est l'ensemble de la session de ce cours universitaire, et c'est surtout le fait que cet étudiant-là, quand il a, et puis écoute, moi, j'ai vu les échanges qu'il a eus avec l'université, il est poli, il est respectueux. Tu sais, c'est pas un gars qui a le bras levé dans les airs, mm-hmm. puis qui dit « ra, ra, ra ».
T'as pas l'impression qu'il est allé là pour foutre le trouble?
Tout, au contraire, écoute, c'est respectueux. Puis il a fait ses recherches, il est allé voir dans les règlements de l'UQAM. Il a dit, quand il s'adresse à l'UQAM, il dit, je veux juste vous signaler que cette prémisse de la professeure, ça vient en contradiction avec le règlement 50 point, je sais pas trop quoi, de votre propre règlement à l'université. Parce qu'il y a des règlements à l'UQAM qui disent que ça doit être une université qui est inclusive et qu'on ne doit pas mettre d'obstacle à l'apprentissage des étudiants et des étudiantes. Ben lui, ce qu'il dit, c'est, regarde, en faisant ça, en m'imposant cette idéologie-là et en me punissant si je n'adhère pas à cette idéologie-là, en me punissant si je n'utilise pas le vocabulaire que la prof a choisi, vous mettez des obstacles à mon apprentissage à l'université. Donc, tu vois à quel point ce gars-là, il a bien argumenté, il a réfléchi à son affaire, et donc le danger de dérapage, qui est la question que tu me posais au début, ben, je pense qu'on est déjà rendu plus loin que ça. Moi, je considère que ce qui s'est passé là, c'est un dérapage, le fait que l'université dise, écoutez, non, 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 votre plan n'est pas recevable, la professeure, il n'y a rien, il n'y a aucun problème dans son plan de cours, puis tout ça. Puis, donc, c'est, moi, je trouve que les projecteurs devraient être tournés vers l'UQAM et la direction de l'UQAM. Comment se fait-il que vous permettez à vos profs premièrement, de propager un guide qui est complètement un pamphlet militant? Parce que dans le guide, à un moment donné, on dit « On ne peut négliger la poursuite de la lutte féministe dans l'énonciation. »
Ah non, c'est
et
militant.
Moi, je suis féministe, là. Mais je veux dire, c'est quoi, là? C'est comme un croix ou meurt.
Ouais, exactement. Ben d'ailleurs, c'est un peu le problème, puis je termine là-dessus, Sophie, c'est un peu le problème, oui. Et je fais un parallèle avec un texto qu'on a reçu au 418-971-1021 qu'on tient à nous en envoyer. Vous êtes plusieurs à nous en envoyer. Une auditrice qui écrit « Ce genre de gauche extrême me gêne. Je suis de gauche, puis je m'associe pas à ça. » Et en effet, moi, je suis quelqu'un de très socialiste. J'ai travaillé dans le communautaire. Je veux prendre soin de mon prochain. Mais quand j'entends des dérives comme ça, je me dis « Hein, je suis donc bien gêné d'avoir une pensée un peu plus à gauche. »
Ben, t'as tout à fait raison, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ton auditrice. En fait, peut-être même qu'on devrait dire auditeurice, hein, parce que peut-être...
Oui, c'est vrai, t'as raison.
Et puis, est-ce qu'on peut vraiment présumer de son genre? Peut-être que t'es en train de la mégenrer, là, fait extrêmement...
T'as raison, on est tous ici présents aujourd'hui à la radio.
Ben oui, puis présents... présente.
Ah ouais, j'ai oublié de mettre deux T. Ah, oui, ça devient compliqué,
même
hein,
que
finalement.
Je voudrais dire une personne à l'écoute. Mm-hmm. Parce que comme c'est personne, c'est neutre. Parce que Maxime, il me racontait que dans ses cours, des fois, les professeurs disaient des personnes étudiantes, des personnes enseignantes. Ouais. Puis à un moment donné, la prof fallait qu'elle parle d'un homme, puis qu'elle a dit une personne homme.
On est rendu là. Ah, écoute, Isabelle, puis là, j'ai dit Isabelle, fait que je présume pas de son genre, d'accord? Okay. C'est son nom, c'est une auditrice. Elle a écrit « C'est la nouvelle religion au Québec, cette façon de penser-là ».
C'est ça. Puis nous qui sommes des hérétiques, si on ne fait que remettre en question, poser des questions, même si c'est de façon aussi respectueuse que Maxime l'a fait, poser des questions, aller vérifier les faits, mettre les gens face à leurs contradictions, ça, c'est considéré comme être hérétique. Puis on se rappelle que là, dans la religion, il y a déjà eu une période d'inquisition. Puis j'ai l'impression que c'est un petit peu à ça qu'on est en train d'assister en ce moment au Québec. Ça sent pas bon. Ce qui est arrivé au cinéma Cartier, ce qui est arrivé à la librairie La Liberté, je pense que ce qui est en train d'arriver à l'UQAM, je pense qu'il faut qu'on soit très conscientisé à tout ça, puis qu'on soit, pour utiliser un bon jeu de mots, qu'on soit éveillé sans être woke.
En effet, je suis très d'accord avec toi. Sophie Durocher, tu permets qu'on se rappelle lorsque tu nous pondras des chroniques excellentes comme ça?
Ben écoute, comme je ponds 2 chroniques excellentes par semaine...
Je vais être obligé de te parler 2 fois semaine!
Ah ben là, écoute, tu m'envoies un bon contrat en bas et du forme, il n'y a aucun problème.
Excellent. Mon boss est à l'écoute. OK.
C'est toujours un plaisir de se parler. Merci.
Salut Sophie, merci. Sophie Durocher, excellente chronique si vous ne l'avez pas lue sur l'écriture inclusive imposée dans un cours à l'Université du Québec à Montréal, c'est-à-dire l'UQAM.
À Boulevard 101. Jusqu'à avec Jeff Fortin et Pascal CV.
La gauche qui dérape, vous en avez pas mal à dire au 418-971-1021. Vous êtes plusieurs à dire « Moi, mon enfant, il ira jamais à l'UQAM ». C'est de valeur parce qu'il y a des bons enseignants, il y a des excellents programmes à l'Université du Québec à Montréal, mais malheureusement, il y a de ces dérives qui arrivent là, qui font en sorte que ça éloigne beaucoup les gens, mais faut pas mettre tout le monde dans le même panier, là, même si on a eu des exemples là, dans la dernière semaine très perturbants sur cette gauche plus radicale avec justement Génération Trans annulée au cinéma Cartier, des menaces à la librairie La Liberté, là, cet exemple-là, à l'UQAM. Pascal, avant qu'on passe à Lannie Dufour qui est avec nous, ça fait 2 semaines qu'on ne l'a pas vu, on est content de l'avoir. Qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Il y a plusieurs choses. D'abord, une nouvelle qui fait vraiment jaser, c'est celle du côté du CHU de Québec où il y a une quarantaine de patients qui vont devoir subir des tests de dépistage du VIH et d'hépatite parce qu'il y a un tournevis mal désinfecté qui a roulé au CHU de Québec. Donc, le CHU a confirmé ça au Journal de Québec que l'instrument chirurgical était désinfecté de façon inadéquate depuis 2017. Heureusement, on précise qu'il est rarement utilisé, mais ça n'enlève pas le fait qu'il est utilisé. Donc, Jean-Thomas Grantham, porte-parole du CHU de Québec, a dit que ce qu'ils ont découvert en cours de route, c'est qu'une des pièces du manche de ce tournevis-là peut se démonter, puis c'était pas nettoyé. Donc, on est dans les principes de précaution là-dedans. Le risque de contamination est jugé faible, mais ça nous ramène à ce genre de problématique-là dans les hôpitaux. Puis ça fait un peu un scénario tellement impressionnant que tout le monde réagit à ça aujourd'hui. On veut aller se faire soigner. On veut pas le contraire. Madame Fréchette, donc, au provincial, Christine Fréchette, s'est un peu flatté l'épaule aujourd'hui disant « Moi, j'ai débloqué des dossiers épineux depuis que François Legault est
parti. » Checkez-moi, allez, quand même, je suis une première ministre, la meilleure première ministre. Pas besoin du PLQ, pas besoin du PQ, c'est moi qui run le show.
Tout ça pour dire que ça paraît qu'on s'en va en élection parce que là, on essaie de redorer l'image de la CAQ. On estime avoir donné un nouvel élan à la coalition Avenir Québec et c'est ce sur quoi on travaille assurément. Pour la suite des choses. Aujourd'hui, 1er mai, ça rime aussi avec l'augmentation du salaire minimum. On augmente de 50 cents, c'est rendu 16,60 au Québec. Le salaire à pourboire aussi est affecté vers la hausse. On passe à 13,30 $, c'est une hausse de 40 cents. Au Québec, c'est tout près de 200 000 personnes qui travaillent au salaire minimum permis par la loi et ce nombre-là représente moins de 5 % de la population de la province. On était au plus haut en 2018, donc là, on vient de réajuster la note. La Commission de la Capitale-Nationale du Québec a annoncé l'investissement de 6 millions de $ supplémentaires pour la mise en valeur du Parc des Moulins à Charlebourg. Donc, l'investissement est rendu à 15 millions de $ d'ici 2030. Ça s'ajoute à des enveloppes qu'on avait déjà, entre autres aménagées sur l'ancien zoo de Charlebourg. Mm-hmm. Là, on voulait revitaliser cet endroit-là. Les travaux en cours à venir, on retrouve la réfection d'infrastructures, la naturalisation des berges de la rivière du Berger et l'amélioration des des sentiers. On surveille en fin de semaine plein de dossiers sur les peines bonbons dans le Journal de Québec.
Vraiment.
C'est fort intéressant aujourd'hui. Sinon, il y a mon attention qui s'est tournée vers la nouvelle aujourd'hui. Moi, je pense que c'est celle qui nous concerne le plus à Québec, puis c'est l'enveloppe du tramway. Parce qu'on a pu confirmer du côté de Radio-Canada qu'il pourrait avoir officialisation d'ici 2 semaines de ce projet de transport structurant-là pour Québec, parce que l'enveloppe serait faxée en bon québécois.
La femme la plus sur la trotte du Québec en entier, je vais la surnommer comme ça, directrice aux affaires gouvernementales chez Catapulte. Elle fait des chroniques également avec nous. Quand qu'elle passe par Québec, hey, ça faisait 2 semaines, t'étais
deux
pas passé.
Semaines.
C'est qui se passe? T'étais pas si sa trotte que ça, finalement,
j'étais
l'année
là.
Fou.
J'étais juste pas capable d'aller dans le choix. Mais je suis montée deux fois à
trop de rencontres! Ah, je te dis.
Puis, hey, je suis même allée au match des Canadiens à Montréal vendredi passé.
C'est vrai, j'ai vu ça sur tes médias sociaux. Puis...
Première fois.
Hein? C'était la première fois.
Tu es rendue fan de hockey ou d'événements?
Pas du tout. Mais quand j'ai été invitée, puis ben là, c'est séries, fait que pourquoi pas?
T'as dit go, j'y vais.
Ben oui. Fait que j'ai vécu ça, là, tu te levais avec la foule, l'émotion. J'étais comme, oh mon Dieu, j'ai le réflexe.
Même toi, t'as embarqué là-dedans.
Fait que là, t'as-tu pogné la fièvre du hockey?
Ben, je le suis, là. Ouais. Ça se règle à soir.
Un petit clin d'œil en passant d'une initiative sur les réseaux sociaux qui est venue vraiment me toucher. Mm-hmm. Il y a un petit gars qui va commencer des traitements de cancer, OK, dans les prochaines semaines. Puis il y a une maman qui a mis ça dans le vent là, sur les réseaux sociaux. Si jamais quelqu'un, un homme d'affaires, une compagnie, a des billets, puis voudrait en donner un à mon fils et moi pour l'encourager avant ses traitements en 24 heures. Tu sais, qu'on parle tout le temps des mauvaises nouvelles, là, en 24
c'était
heures.
Réglé.
C'est réglé. C'est sûr, vous allez le voir en fin de semaine ou cet après-midi dans vos articles de journaux. Là, habituellement, tu sais, on se pitche sur ce genre d'histoire-là.
Ouais.
Fait que je voulais quand même vous le dire. Félicitations à tous ceux qui se mobilisent
vraiment,
en ce temps-là.
Vraiment, vraiment. Chapeau à la communauté
c'est
d'affaires.
C'est positif des médias sociaux.
Ouais.
Oui, en effet, il y a un côté très positif. Pendant que tu avais ton premier match canadien, moi, je faisais mon premier numéro d'humour à Sarah Barroso. Fait que bien été, j'ai bien aimé ça. C'est pas de l'humour ce que Pascal nous racontait par rapport à Christine Fréchette, parce que oui, c'est pété bretelles aujourd'hui. Bon, elle est allée chercher un bon nombre de résultats, avec raison. C'est le caucus de la CAQ à Rivière-du-Loup. Mais comment tu vois ça, t'es? Shirley Dorismond n'était pas là. Gilles Bélanger n'était pas là. Geneviève Guilbeault n'était pas là. T'sais, comment tu vois cette unité-là pour rentrer dans les élections?
Tu vois, j'ai parlé avec des gens de son entourage et ce qu'on me dit, c'est qu'on parle plus d'unité. On est vraiment en mode, on regarde en avant. Puis ceux qui, tu sais, les absents ont toujours tort. On dit ça. Donc, tu sais, à un moment donné, si tu décides de ne pas embarquer dans le train, bien, nous, on y va.
Mm-hmm.
Puis ça te regarde. Fait que, tu sais, à un moment donné, je pense que pour Mme Guilbeault, c'est correct, là, tu sais, elle est un peu dans son phasing out. Elle a fait des entrevues aussi pour parler un peu plus de sa nouvelle réalité, plus de maman.
Puis là, contente de retourner dans son comté, terminer ça dans Louis Hébert.
Pour les autres députés, bien, tu sais, ça, M. Bélanger a aussi fait une entrevue cette semaine. Puis, tu sais, je pense que on est plus dans l'ego un peu, là. Ils sont fâchés, puis garde, c'est correct, là, tant qu'à avoir des gens fâchés d'être là, ben moi, je me dis, on est quasiment mieux qu'ils soient pas là.
Bon
mais
point.
Pour... Ben tu sais, regarde, c'est
ben
ça.
Ben non, mais bon point, on va pareil, avancer avec ceux qui veulent avancer.
C'est un excellent point, un excellent chemin, puis en même temps, ben l'autre analyse est aussi bonne, c'est de se dire, ben il s'est passé quelque chose à la CAQ, puis tu sais, c'est
oui,
sincère.
Oui, puis il y a eu un changement, puis tu sais, c'est comme dans une business, là. À un moment donné, quand t'es en croissance, puis là, tu sais, je dis pas que c'est en croissance, mais mettons, on prend le parallèle d'entreprise. Bien, il y a des moments, des phases où est-ce que parfois tu vas avoir un employé qui est super, puis bien lui, avec la vision où est-ce que tu t'en vas, bien c'est plus pour lui. Là, il aimait mieux la plus petite entreprise, puis là tu grossis.
En effet.
Bien, puis c'est correct, tu sais, à un moment donné, si c'est plus pour eux, ça va, mais il faut que tu acceptes aussi, il y a un changement de gouvernance. C'est sûr que ça crée de la gestion du changement, puis ils ont un plan, puis on peut se dire, ils livrent là, le plan.
Ben oui.
Là, les prochaines annonces qu'on me dit, c'est que ça va être identité et santé. Ils ont fait les annonces économiques cette semaine, c'est leur prochaine étape. Et on retourne mardi à l'Assemblée nationale. Je vais être là pour suivre qu'est-ce qui se passe un petit peu. Donc, discours d'ouverture, on pourra s'en reparler.
La porte du studio est ouverte.
Oui, voilà, on s'arrangera ça pour que je vienne faire un petit compte rendu. 3 projets de loi qui sont importants. Puis ça, je ne sais pas si c'est un scoop, mais je vous le dis.
Vas-y.
La loi Clark, ça, on s'en doutait un peu. La carte électorale, on veut régler ça. et la loi 101 à la formation professionnelle. Donc, c'est les trois priorités qu'on a en termes de travaux parlementaires. Ça ne veut pas dire que les autres ne se feront pas, mais c'est vraiment les projets de loi qui sont importants pour Mme Fréchette.
Parlant de la loi Tlard, après la pause, on va parler avec Rachel Renault. C'est la sœur de Gabrielle Renault qui a été assassinée justement par un ex-conjoint violent. Donc, elle va nous raconter l'histoire de sa sœur, puis justement faire de la pression. Mais Yann Lafrenière l'a bien dit tout à l'heure, là, en scrum, là, devant les journalistes. Il a dit que c'est la priorité. Donc, ça devrait se régler, mais on va entendre là, le récit, justement, que Rachel a nous proposé.
C'est un signal fort qu'on a envoyé en le nommant vice-premier ministre. Parce que, justement, toutes ces questions-là, on veut les régler. Il y a le bon ton. Et on me dit même que les sondages sont bons. Fait que là, j'ai dit, ben, tu des nouveaux sondages que j'ai pas vu?
Oui, ça s'en vient-tu?
Bien, ça a l'air que oui. Ça a l'air qu'il y aura un effet Fréchette.
Bien, c'est justement, j'avais hâte de voir le prochain sondage, puis j'avais hâte de te parler parce que toi, chez Catapulte Communication, t'es installé au Saguenay. Ouais. Nous autres, là, on a de la misère à avoir le pouls de la CAQ, puis je t'explique, on a été échaudés dans la Capitale-Nationale. Troisième lien, pas de troisième lien, tramway, pas de tramway. T'sais, on a l'impression que les huit ans de la CAQ, là, je regarde dehors, puis je dis, non, tabarouette, il n'y a rien changé.
Puis on a perdu beaucoup de ministres ici. Là,
on a perdu beaucoup de ministres. François Legault fait beaucoup de rencontres diplomatiques à Montréal alors qu'il y a une loi, c'est la capitale nationale. Fait que, tu sais, moi, te le dire, à Québec, on est fâchés contre la CAQ.
Notre maire s'entend plus avec la province non plus.
Mais ailleurs, j'ai l'impression que la CAQ recommence à faire parler positivement. Je me trompe-tu?
Mais pas juste ailleurs. Cette semaine, on a eu une entente avec les médecins spécialistes.
C'est vrai.
On a rencontré des syndicats qui ont quand même été agréablement surpris du ton de la discussion, puis on les a tous rencontrés ensemble cette semaine. Baisse d'impôts en Beauce. Après, c'est sûr qu'il y a certaines entreprises qui disent ben ça change pas tout, mais c'est ce qu'on demandait, puis 1%, si ça va jusqu'à 5 000 ben écoute, c'est mieux que rien, puis c'est quelque chose de concret. T'sais, on était, on veut pas s'en aller dans les grandes visions, les réformes, on n'a pas le temps. Fait que c'est une accumulation de petites choses où est-ce qu'on est capable de marquer l'esprit, puis ce que j'entendais, puis tu sais, c'est un petit sondage maison, mais tu sais, quand on pose la question, ben, est-ce que Mme Fréchette a réussi à faire tasser là, l'esprit de François Legault, parce que c'était beaucoup plus M. Legault qu'on voulait plus voir, puis c'est ce qui ressort dans les discussions.
Vrai.
Donc ça, je pense que c'est bien joué de son côté. Est-ce que les défis restent? Assurément, on manque de temps. Puis là, en ce moment, ben, on ne siège pas à Québec, donc on a le luxe de maîtriser plus l'agenda médiatique, politique. Quand on va retourner à l'Assemblée, puis qu'on aura plus la joute parlementaire, puis que les oppositions vont un peu plus jouer du coude, on va avoir l'étude des crédits, bien, c'est sûr que là, peut-être qu'on va devoir répondre à des questions plus difficiles. Mais en ce moment, c'est correct, on est en tournée, on est en caucus, donc beaucoup plus de contrôle sur les messages. Donc, ça va être un défi pour eux. Mais pour l'instant, ça va bien. Puis, je pense qu'en tant que première ministre, elle livre qu'est-ce qu'elle avait à livrer. Puis c'est dur de critiquer en ce moment le travail qu'elle fait.
C'est particulier des fois en politique parce qu'on se dit le passé d'un parti revient toujours au galop. Là, un peu comme les libéraux, tu changes la personne qui va être à la tête. Il y a quand même des phrases qui sont rappelées. Là, avec Charles Milliard, on a vu quand même une nouvelle ère. Mm-hmm. Avec Mme Fréchette, on voit une nouvelle ère aussi pour la CAQ. Mais il y a des problématiques quand même. Puis les dossiers qu'on rend en ce moment, c'était des dossiers qui étaient malgré tout travaillés sous l'air Legault. Comment est-ce qu'un électeur va se départager entre le legs du parti versus une nouvelle personne au pouvoir?
Et je pense qu'il y a un moment aussi où est-ce que l'opinion publique, elle est très malléable. C'est ça qui est beau de la politique, c'est que ça peut changer, puis on n'est pas campé. Puis oui, il y a des camps de tout le monde, mais je dis tout le temps que ceux qui ont réel pouvoir, c'est les indécis. Puis c'est cette base-là qui bouge, puis qui fluctue un peu plus, puis qui se laisse influencer par, justement, des actions comme on fait. Puis, tu sais, les médias, ce qu'on se dit ici, tout ça a une influence. À un moment donné, tu sais, le spin, il embarque, puis rapidement, pour répondre à ta question, ce qu'elle doit faire, c'est se cadrer dans le narratif qu'elle veut bien. Parce que quand les oppositions décident de te camper comme, justement, quelqu'un qui a un leg, qui a un passif, tu sais, on va voir, là, vous allez voir, des fois, vous dites, voyons, il répète tout le temps la même affaire, le chef de l'opposition, puis, tu sais, on le voyait beaucoup avec François Legault, puis c'est brouillon, tu sais, on l'a entendu, là, de la part de Marc Tanguay. Bien, c'est parce qu'on essaie de créer, à force de le répéter, cette idée-là dans l'esprit des gens.
C'est la technique Jean Charest.
Voilà.
Mario Dumont est une girouette.
Oui.
Ça a tellement fonctionné, c'est la technique. Cependant, justement, je t'amène là-dessus. Est-ce que c'est la bonne stratégie pour les libéraux de dire Fréchette, c'est comme Legault? Les conservateurs ont essayé ça au Canada. Carney, c'est comme Trudeau, puis ça n'a pas bien marché, là.
Oui. Et c'est sûr que, écoute, politiquement parlant, Charles Milliard, je pense qu'il y a moyen d'aller un petit peu plus haut puis d'être constructif, mais étant en politique, je pense qu'on lui demande d'être un peu plus incisif, puis il essaie de le faire. Puis tu vois, la critique sur la baisse d'impôts, je pense que ça n'a pas si bien marché.
Non, ça n'a pas fonctionné.
C'est pas ça. C'est pas le bon ton. Puis on parlait, la CAQ avec Québec, ils sont plus là. Bien, écoute, Mme Fréchette, elle est allée rencontrer tout de suite Bruno Marchand. Ça va super bien. Belle rencontre avec la ville de Montréal aussi. Fait que tu sais, je pense qu'à un moment donné, les gens, surtout quand tu es en période d'incertitude, ils s'attendent à avoir un ton un petit peu plus rassembleur. Donc, conseil à tous, c'est pas le temps de déchirer sa chemise, puis d'être fâché, puis d'être acrimonieux. Je pense que c'est pas ça. Surtout quand l'été arrive, là, on veut.
Tu as raison.
T'sais, on peut-tu être constructif?
Et hey, puis là, on l'attend depuis longtemps, le soleil. Là.
Voilà.
Puis la donc, température chaude.
Ça va être nécessaire d'être un peu plus en mode solution. Puis, justement, écoute, Éric Duhaime, il était à Lévis la semaine passée. Mm-hmm. Puis, première chose qu'il a faite, saluer Bernard Drinville pour sa course.
Très bien.
C'est bien, ça.
Oui, c'est très bien en tant qu'adversaire politique. En effet, t'as entièrement raison. On termine là-dessus parce que tu es toujours capable, Lani, de nous expliquer des problèmes, des situations complexes. C'est quoi la Banque de la Défense au Canada? Puis, qu'est-ce que Montréal aurait à gagner à l'avoir?
En fait, c'est la Banque de la Défense, de la Sécurité et de la Résilience, la BDSR.
OK.
Ouais. Donc, le vrai terme, c'est l'OTAN. L'OTAN, on s'entend que tout le monde sait un peu c'est quoi. C'est notre organisation internationale des pays qui sont alliés en termes de sécurité. Donc, on a cette banque-là qui est dans les discussions, qui avait déjà été entendue que le Canada serait, ça a coulé la semaine passée, je pense, dans les médias, où est-ce qu'on dit, pourrait être l'hôte de cette banque-là. Donc, déjà là, c'est une bonne nouvelle parce
c'est
que...
C'est des gros capitaux qui arrivent chez nous.
C'est des capitaux. Puis au final, tu sais, quand tu as des organisations internationales comme ça, il y a des bureaux, il y en a une soixantaine à Montréal déjà d'instances internationales. Mm-hmm. Il y en a dans tous les autres pays. Et là, on choisit le Canada. Signal assez fort, je pense, en termes de positionnement stratégique parce que notre proximité avec les États-Unis, je pense qu'on veut envoyer un signal
en effet.
Avec l'OTAN. Vous savez, l'OTAN, on veut avoir 5 % d'investissement de chaque pays en défense. Donc ça, c'est le plus gros levier. Carney, quand il est arrivé, a dit « Moi, je vais remplir ça. » Les conservateurs, c'était aussi un engagement. Donc, on a réinvesti énormément en défense. Donc là, encore une fois, pas anodin de choisir le Canada. Il y a quatre endroits en ce moment au Canada, dont Montréal, comme tu dis, qui sont ciblés, qui sont en évaluation. Puis là, tous les politiciens jouent un peu du coup.
Oui, là, tu as les grosses métropoles, là, Vancouver, Toronto, puis tu as Ottawa aussi,
Ottawa,
hein, je pense.
Oui, avec Montréal. Donc, on veut l'avoir chez nous. Et là, Montréal, bien, c'est sûr que, tu sais, avec l'aérospatiale, ça pourrait être très intéressant de l'avoir.
En effet.
On a Bombardier, on a, tu sais, les ports aussi à proximité. Donc, il pourrait avoir assurément un avantage. Mais ce que ça change, en gros, pour nos entreprises, nos PME, c'est que les pays qui sont dans l'OTAN, là, c'est quand même difficile de s'intégrer dans les chaînes de valeur parce que c'est des appels d'offres, c'est complexe. Il faut que tu aies des certifications aussi pour faire affaire avec la défense. Donc, d'avoir une banque comme ça, bien, ça permet d'avoir finalement des accès à des liquidités parce qu'en ce moment, souvent, tu es un peu défavorable quand tu demandes de l'argent pour investir en défense. La BDC a essayé d'avoir des programmes Investissement Québec. C'est nouveau, là, qui permettent d'investir dans des projets en défense. Donc, pour avoir un taux d'intérêt qui est plus favorable, puis essayer d'avoir une meilleure compétitivité, c'est un mot difficile, pour être dans la chaîne, avoir accès, donc créer justement de la richesse, de la valeur pour nous, puis avoir de l'argent un peu plus rapidement, parce que ce qu'on me disait même, c'est que souvent, tu étais juste payé à la livraison. Fait que c'est dur quand même de maintenir.
Oui, parce
que
ça te prend les investissements majeurs
c'est ça, de maintenir
à l'avant-plan.
Donc, ça vient garantir des prêts, puis donner justement aux entrepreneurs une volonté un peu plus grande d'investir dans ces secteurs-là qui sont quand même intéressants parce qu'on parle d'énormes projets. Là, à Bagotville, dans mon coin, c'est des milliards d'investissements dans les hangars pour recevoir les avions là, de chasse.
Donc, on va suivre ça avec grand intérêt parce que ça pourrait aider justement notre économie au Québec. Lani Dufour, on s'en parle la semaine prochaine?
À la semaine prochaine.
Bon week-end! Bye. Dans un instant, Boulevard 102.1, dans la dernière heure de cette émission d'Angers, on va parler avec deux femmes exceptionnelles. Rachel Renault, dont sa sœur Gabrielle Renault a été assassinée par un conjoint violent. Et on va parler également avec Laurie Doucet, la fille de Steve Leby-Doucet, une figure marquante du crime organisé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ancien chef des Satan Guard, un club-école des Hells Angels. Alors, deux belles entrevues humaines qui suivent dans la dernière heure de cette émission, l'émission d'Angers. Toujours un bonheur d'être avec vous sur les ondes de Boulevard 101 à l'émission On en jase, 13h15. On jase d'actualité, on analyse des grands enjeux politiques pour vous à longueur de semaine, mais la fin de semaine, c'est la musique qui prend sa place. Dès 18h ce soir, c'est le Garage à Dan avec Dan Caron, les meilleurs classiques rock. Dès 7h les samedis et dimanches, c'est le Rock and Chill avec Audrey Pinchot. À 10h les samedis et dimanches, c'est le Boulevard du Rock avec Dan Caron les samedis, Colosse les dimanches. Ils seront en direct du Salon de l'Autosport au centre de foire. On vous invite à y aller d'ailleurs. Un partenaire de Boulevard 102. Un 15h à 17h, c'est les Colosses du Rock animés par Colosse. Là, on monte le volume et on met ça vraiment edgy. C'est très, 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 très bon. Puis, une bonne raison, évidemment, pour écouter le Boulevard du Rock, c'est que vous pouvez gagner vos billets pour aller voir Bring Me the Horizon le 30 septembre prochain au Centre Vidéotron. Donc, soyez à l'écoute ce week-end du meilleur rock en ville, c'est-à-dire le rock sur les ondes de Boulevard 102.1. Pascal, on surveille parce que... Prends-moi le financement du tramway, ça s'en vient. Hein?
Oui, on a l'impression que ça a travaillé fort dans les coins pour ne pas perdre la face. Pour vrai, j'ai cette impression-là. Renouveau avec le financement fédéral du transport collectif du tramway. Pourquoi j'appelle ça renouveau? C'est qu'on ne savait pas trop si on allait voir l'enveloppe, mais finalement, Radio-Canada a pu confirmer qu'il y aurait une entente qui pourrait être officialisée d'ici 2 semaines concernant le tramway de Québec avec le fédéral. Et c'est en compagnie du nouveau ministre responsable des Relations canadiennes, Jean Boulay, qu'on s'en va dans cette ère-là d'annonce dans un délai rapproché pour le financement fédéral du tramway.
Très hâte de voir la suite des choses. Chose certaine, on se souhaite à Québec justement qu'au moins un grand projet soit sécurisé avant la prochaine élection provinciale. On parle énormément dans l'actualité. Il y a déjà 9 féminicides depuis le début de l'année. On parle de cette violence envers les femmes qui est en augmentation. Et personnellement, ça me sidère de voir autant d'hommes violents dans notre société. À l'heure actuelle, et c'est une promesse du vice-premier ministre et ministre de la Sécurité intérieure, Yann Lafrenière, on devrait passer d'ici la fin de la session parlementaire la loi de Clare. La loi de Clare, ça va être un mécanisme juridique qui va permettre à une personne de demander si son partenaire intime ou celui d'un proche ou d'une proche a des antécédents de violence conjugale. Et pour en parler avec nous, on a Rachel Renaud, sœur de Gabrielle Renaud, malheureusement assassinée par un ex-conjoint violent. Madame Renaud, merci beaucoup de participer à l'émission On en jase avec nous.
Bonjour, merci Jean-François de me recevoir. Et juste une petite correction, c'est pas Gabrielle, c'est seulement Gabi.
Gabi, oh, excusez-moi, très grand.
C'est des erreurs qui sont arrivées fréquemment depuis ta jeune enfance. Donc, c'est
d'accord.
Pas la première fois.
Madame Renaud, je commencerai. Racontez-nous justement l'histoire de Gabi. Comment tout ça est arrivé, le fait qu'elle a rencontré un nouveau conjoint et que finalement, malheureusement, là, l'irréparable est arrivé.
Donc, elle avait rencontré l'accusé quelques mois avant l'histoire fatidique. Dans le fond, il y a eu des épisodes de violence conjugale avant le décès de ma sœur. Donc, elle était en connaissance de cause. Par contre, comme j'ai dit en d'autres entrevues, là, ma sœur avait besoin de beaucoup d'amour. C'est une personne qui était quand même assez vulnérable et tout ça. Donc, souvent, dans un contexte de violence conjugale comme ça, on pense être la personne qui va être la sauveuse de l'homme puis qui va le changer. Mmh. Malheureusement, elle a payé de sa vie là, pour essayer de changer cet homme-là. Là.
En plein ça. Et dans l'histoire de votre soeur, puis soit dit en passant, votre soeur n'est pas la seule, puis il y a également, malheureusement, plusieurs hommes qui abusent justement de cette vulnérabilité-là chez les femmes. Cet homme-là avait justement des antécédents de violence conjugale, mais votre soeur n'était pas au courant.
Non, ma soeur était au courant. Okay. Parce que je lui avais envoyé un article que Geneviève Peterson avait écrit avec Nancy Boucher, qui est l'ex de l'accusé. Puis, j'avais envoyé l'article à ma sœur. Puis, elle m'avait dit, parce que moi, elle m'avouait pas vraiment qu'elle était en couple avec lui jusqu'à temps qu'elle se présente chez moi parce qu'il y avait, il y avait sa crune volée, tu sais. Mm-hmm. Puis elle me disait que non, c'est juste un ami, tout ça, c'est pas mon chum, puis tout ça. Donc moi, elle me cachait qu'elle le voyait dans ces circonstances-là, là, qui était un couple et non juste des amis. Là.
Je suis tellement désolée. Je pense que tous nos auditeurs le sont aussi. C'est pas des mots qui valent grand-chose dans ce genre de situation-là. C'est dur de trouver les bons mots. Quand on est dans une situation où on veut prendre soin de quelqu'un qui, clairement, à nos yeux, est en relation ou côtoie quelqu'un qui pourrait faire des actes criminels envers la personne qu'on aime, à quel point on se sent dans un trou noir puis qu'on ne sent pas aider pour sortir notre proche de cette situation-là?
Mais c'est difficile parce qu'en même temps, tu sais, moi, j'ai essayé, là, j'ai essayé de supplier les menaces pour que, quand elle s'était présentée chez moi pour qu'elle retourne avec, tu sais, quelques jours après, elle était revenue avec elle. Tu sais, toute la famille, on a essayé, on lui a parlé. Malheureusement, c'est très difficile. Tu sais, tant qu'on ne vit pas personnellement un épisode de violence conjugale, c'est très, très dur de comprendre pourquoi ces femmes-là restent avec ces hommes-là ou l'inverse, pourquoi les hommes restent avec ces femmes, les femmes qui font de la violence conjugale aussi. Donc, c'est des cycles, c'est des cercles vicieux, les périodes de lune de miel font en sorte que des fois, il en oublie les périodes de noir, c'est très, très difficile, puis on a beau vouloir les aider, mais aussi, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que les hommes vont isoler les femmes des proches, de la famille, des amis et tout ça, là. Donc,
c'est tellement de manipulation, là.
Exactement. Tu sais, c'est des professionnels, là. Tu sais, s'il y aurait une profession batteur de femmes, je pense que il y en a une couple là-dedans qui serait président. Là,
Qu'est-ce qui vous répare dans tout ça, bien que ce soit probablement impossible? Là, est-ce que dans ce genre de cas-là, c'est ce qui va se passer en cour, les peines, l'appui du public? Qu'est-ce qui répare?
Il n'y a pas grand-chose qui répare, pour être honnête avec vous. Moi, si je fais ce combat-là, c'est pour ma nièce, pour les autres femmes, pour les jeunes filles en devenir d'être en couple et tout ça. Parce que malheureusement, peu importe ce qu'on va mettre en place, ça ne ramènera pas ma soeur. T'sais. Ça ne ramènera pas les autres victimes de féminicide non plus. Là. Mais c'est pour prévenir, pour l'avenir et tout ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Là. T'sais, la loi Gabi-Renault, c'est un avancement, mais c'est pas tout. Là. Il y a beaucoup de choses encore qu'on doit changer et qu'on doit faire avancer.
Oui, justement. Ça doit vous sécuriser de voir que le vice-premier ministre met cette loi-là à l'avant-plan dans l'agenda législatif. Mais vous en parliez également, ça va prendre plus de ressources pour aider les femmes.
Exactement. Donc, on s'entend aussi au niveau de la réforme que le ministre Jeannette Barrette a fait au niveau de l'UVAC, ça avait fait l'effet contraire. Là. Les femmes sont carrément dépourvues. Au niveau des centres d'hébergement pour les femmes battues, il manque énormément de place. Une fois sur deux, les femmes se font dire qu'elles n'ont pas de place. Donc, c'est vraiment difficile. Là. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Lui aussi, il y a le travail que le gouvernement fédéral fait au niveau de la loi criminelle pour s'assurer que les féminicides soient vus comme un meurtre au premier degré et avoir une prison à vie à ce niveau-là. Et aussi mettre au code criminel le contrôle coercitif, qui est quelque chose de très, très, très important parce que souvent, les relations de violence commencent par le contrôle coercitif, commencent par de la violence psychologique. Puis malheureusement, quand les policiers se présentent, si t'as pas un œil au beurre noir puis que c'était du contrôle coercitif ou psychologique, ça paraît pas. Donc, il faut aussi s'assurer que les personnes, les intervenants soient bien formés au fait de tout ça aussi, que ce soit autant les policiers, que ce soit les juges, les gens au niveau du droit puis tout ça. Là. Donc,
non, en effet, il y a énormément de travail à faire, autant sur le plan juridique que sur le plan d'aide, parce que, corrigez-moi, Mme Renault, On n'a pas une deuxième chance, je pense, hein, avec des personnes comme votre sœur. Si on a une opportunité de la sortir de ce climat de violence-là, si on la rate parce qu'on se frappe le nez sur une porte fermée dans un centre d'hébergement ou un policier qui ne croit pas, ben à ce moment-là, la personne va encore plus s'encarcaner dans son climat de violence. Est-ce que
exactement,
je me trompe?
Parce qu'il y a une problématique aussi au niveau des plaintes croisées. Donc, ça rend les situations très difficiles pour les femmes parce qu'apparemment, on n'a pas le droit de se défendre parce que le bourreau va faire une plainte, puis là, on se retrouve, nous, à ne pas se faire croire ou la plainte est annulée. Là, donc, il y a beaucoup d'avancées à faire. Là. Il y a beaucoup de travail de fond. Puis, c'est où on doit partir aussi? Est-ce qu'on doit aller dans les écoles, faire des présentations, puis tout ça? Parce qu'on s'entend qu'un élève qui frappe déjà un professeur, il va faire quoi avec ses conjointes quand il sera pas content? Il y a beaucoup de
questionnements à avoir là-dessus. Hein? Sur comment est-ce qu'on... Ouais. On n'arrête pas des comportements quand ils sont difficiles. Il y a un point aussi qui est rarement abordé, c'est la gêne, c'est la honte. Puis au moment où, admettons, ces femmes-là ont protégé, d'une manière ou d'une autre, l'opinion que l'entourage peut avoir sur le conjoint ou la conjointe en question, là, parce que ça peut être dans les deux sexes, là. Fait à un moment d'être honnête sur ce qui est vécu, ça peut être gênant parce que tu as l'impression de changer ton histoire. Puis ça permet pas des fois aux femmes, dans ce cas-ci, d'aller plus loin avec leur histoire parce qu'ils savent qu'au départ, ils n'ont pas tout dit puis qu'ils ont protégé l'agresseur.
Exactement. Souvent, c'est des demi-vérités. Ce qui fait en sorte que, tu sais, vu que, tu sais, comme moi, j'avais pas tout le temps l'histoire complète avec ma sœur non plus, là. Donc, c'est difficile dans ce temps-là de pouvoir aider complètement parce qu'on n'a pas toutes les faits non plus, là.
Rachel Renaud, merci beaucoup pour votre témoignage très touchant sur l'histoire de votre sœur. On va souhaiter que très rapidement les mesures soient mises en place, c'est-à-dire à commencer par la loi de Clare et par la suite là, qu'on ouvre encore plus de place dans les ressources et qu'on change le code criminel, là, notamment au niveau du contrôle coercitif. Je vous remercie infiniment pour votre présence
merci
à l'émission d'Angers. Merci. Au revoir.
Bonne fin de semaine.
Merci,
bye-bye.
Vous aussi. Au revoir. C'était Rachel Renaud, sœur de Gabi Renaud, qui a été assassinée par un conjoint violent. Ça s'est passé le 7 septembre dernier dans la région de Saint-Jérôme. Merci pour vos commentaires par texto. Une personne qui écrit, ce ne sont pas des hommes, c'est des monstres, en effet. La très grande majorité des hommes se comportent bien avec les femmes, mais il y en a trop encore qui sont violents. Puis des personnes qui parlent que c'est un témoignage qui était très touchant, il n'y a pas de doute là-dessus. On va regarder nos gouvernements à l'œil, mais il faut vraiment agir, Pascal, parce que c'est un fléau là, qui s'installe dans la société, puis un fléau très négatif.
Puis c'est, oui, une mesure qui peut être prise par les femmes qui le vivent, mais parfois l'entourage vaut beaucoup. Puis quand c'est l'entourage qui décide de prendre les devants puis d'aller, par exemple, faire une plainte ou à la police ou lever des flags, ben c'est encore moins pris au sérieux que par la victime elle-même si elle n'a rien sur son corps ou quoi que ce soit. Fait que courage. C'est loin d'être facile. Puis rester dans le non-jugement, rester dans l'accompagnement, ça peut prendre tellement de temps puis tellement de patience, mais à un moment donné, tout finit par s'ouvrir puis se dire.
Non, t'apportes un bon point. Pas se fâcher après les gens. Si t'avais une sœur, une amie, une cousine présentement qui est sous le contrôle d'un homme comme ça, soyez pas fâchés après. Dis pas, voyons, qu'est-ce que tu penses là?
Moi, j'ai connu des femmes fortes, là.
Exactement.
Se tenir, là, puis arriver dans une relation qui a été... sur du long terme, extrêmement manipulatrice, puis à un moment donné, c'est là où ça débarque. Là.
Vraiment, soyez bienveillants, bienveillantes avec ces femmes-là, puis c'est, je pense que c'est la meilleure façon. Tendez-leur la main, laissez-leur le temps, puis je pense que ça va être la meilleure façon de les sortir là, des griffes là, de ces individus-là. Je me plais toujours à dire, Pascal, qu'on n'est pas tous égaux. Et c'est clair que la personne avec qui on va parler après la pause, Laurie Doucet, elle n'est pas née dans le même cadre familial que moi, où j'avais deux parents qui s'aimaient et qui faisaient le maximum pour que j'aie tout dans la vie. Parce que c'est la fille de Steve Leby Doucet, une figure marquante du crime organisé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ancien chef des Satan's Guard, un club-école des Hells Angels. Elle va parler avec nous parce qu'il y a un documentaire qui va sortir sur la vie à l'ombre du crime. Bien hâte d'entendre entendre son histoire. C'est sur les ondes de Boulevard 102.1 qu'on l'entend dans quelques instants à l'émission On en jase. (Rire) 13h35 en ce vendredi après-midi sur Québec. C'est présentement 9 degrés Celsius. C'est généralement nuageux pour aujourd'hui. Moins 3 cette nuit. Il va faire froid pour les gens qui vont au karaoké. Ah, je viens d'avoir une pensée pour Max Arouche. 12 degrés, 60 % de possibilité d'averse pour samedi et 11 degrés alternance de soleil et nuages pour dimanche. Je salue tous les gens qui vont participer au demi-marathon de Lévis dimanche. J'y serai. Si jamais vous me voyez, vous me reconnaissez, n'hésitez pas à venir me parler. Ça va me faire un immense plaisir. Mais on m'ennuyer parce que ma blonde ne sera pas avec moi.
T'es encore trop malade. Hey,
c'est l'enfer. J'ai jamais vu Val malade comme ça. C'est une méchante grippe musculaire. Je la salue. Puis en tant que chum amoureux, je viens d'écrire « Je t'aime fort et je pense à toi ».
Tu fais bien.
Faut que je prenne soin de ma blonde. Mais écoute, oui. Je peux pas coller parce qu'il y a plein de microbes. Ça me fait une cœur.
Tu peux pas pogner
le J'ai même pas dormi maladies. Dans le même lit hier. Ben là, c'est parce que je me dis, tu sais, il y en a un, il y en a déjà une qui rate le demi-marathon. On a payé pour ça. Coudonc, m'assieds, dis allez, moi.
Je vais aller représenter la famille.
Ben, c'est ça, exactement. Pascal, avant qu'on parle avec Laurie Doucet, cette jeune dame, fille de Steve Leby Doucet, une figure marquante du crime organisé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité? Je pense qu'on a des développements concernant le fameux tournevis.
Oui, ben en fait, c'est que là, c'est un recoupement d'informations entre les médias parce qu'initialement, c'est le Journal de Québec qui a sorti qu'il y a une quarantaine de patients qui vont devoir subir des tests de dépistage du VIH et d'hépatite en raison d'un tournevis qui était mal désinfecté au CHU de Québec. Et là, l'information sort du côté de Radio-Canada comme quoi ce serait à l'hôpital L'Enfant-Jésus. Donc, un peu plus d'informations. Donc, l'instrument chirurgical était désinfecté de façon inadéquate depuis 2017. Heureusement, on précise qu'il était rarement utilisé. Les patients concernés sont contactés. Donc, ça aussi, c'est la bonne nouvelle. On prend les devants, on vous appelle. On est vraiment dans le principe de précaution. La contamination est jugée faible, mais quand même, voilà ce qui se passe au niveau de la santé ici à Québec. Financement fédéral du transport collectif. On se pose la question, hein, où l'enveloppe du fédéral? Pourquoi est-ce qu'on va de l'avant? Ça fait bien des chicanes dans ce projet-là. Et ça évoluerait relativement bien. C'est ce qu'a dit qui? M. Boulet, donc Jean Boulet, le nouveau ministre responsable des relations canadiennes. Il y aurait une annonce dans un délai rapproché au sujet du financement fédéral du projet de tramway. Délai rapproché, ça veut dire d'ici 2 semaines, selon les informations de Radio-Canada. Madame Fréchette Fouette, ses troupes avant une courte session parlementaire chargée. C'est le titre de Radio-Canada. Les élus caquistes sont en prévision du retour parlementaire. Ça, c'est pour le 5 mai. Alors, ça s'en vient. Elle est à Rivière-du-Loup et ce serait là un bon branle-bas de combat. On est dynamique. On est content de revenir. Elle a même affirmé, je vous rappelle, je vous en parlais un petit peu plus tôt, qu'elle redore la couenne de la CAQ. Là. Elle pense qu'il va y avoir un nouveau vent et que même aux prochaines élections, ils auraient leur chance.
Oui, et vous écouterez sur le plvd.fm si vous ne l'avez pas entendu, notre chronique Lanny Dufour qui parle qu'il y aurait des sondages qui arriveraient la semaine prochaine, Pascal CV, puis ça serait très positif pour Christine Fréchette. Alors, course à 3 à l'horizon? Intéressant, ça va nous faire une bonne campagne électorale.
Salaire minimum qui passe à 16,60 au Québec, c'est 50 cents de plus qu'il était. Pourquoi aujourd'hui? Ben, c'est le 1er mai et c'est la journée internationale des travailleuses et des travailleurs. Mais en relation avec cette journée-là, il y a aussi les Robins des Ruelles qu'on a vu en fait comme phénomène agir du côté de Montréal. C'est des gens qui volent dans les épiceries et qui donnent la nourriture. Pour eux, c'est une façon d'exprimer leur mécontentement quant à l'inflation puis aux marges que les épiciers se mettent dans leur poche, là, selon les prix. Ils ont cambriolé de nouvelles épiceries à Montréal, puis à Québec aussi. On a peu d'informations sur celles de la capitale nationale, mais c'est confirmé par Radio-Canada, donc c'est un phénomène qui est rendu ici. Et Donald Trump s'est dit non satisfait de la dernière offre de l'Iran, donc dans cette guerre au Moyen-Orient. L'Iran a soumis aux États-Unis une nouvelle proposition, voulait relancer les négociations de paix. C'est ce qu'un média d'État iranien écrivait, et c'était salué par une nette baisse des cours du pétrole aujourd'hui. Mais là, Donald Trump, il n'est pas satisfait de ça, donc on repart en négociation. Puis c'est bien complexe encore une fois.
Un conflit qui perdure et qui perdure. Et pendant ce temps-là, c'est nous qui paie très cher parce que dans la région de Montréal, c'est jusqu'à 2 $ le litre d'essence. On va surveiller ça attentivement au cours du week-end à Québec. Qu'est-ce que c'est, Pascal CV, que d'être la fille ou le fils d'un grand criminel? C'est ce qu'on va savoir en parlant avec Laurie Doucet, fille de Steve Leby Doucet, une figure marquante du crime organisé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, notamment ancien chef des Satan Guard, un club-école des Hells Angels. Elle est au bout du fil avec nous. Laurie, comment vas-tu?
Hey, salut, ça va super bien, vous autres aussi. Merci de l'invitation.
Ça fait plaisir. Laurie, comment on vit notre enfance quand notre père, c'est le kingpin du crime au Saguenay-Lac-Saint-Jean?
Bien, on la vit différemment.
Ça, ouais, ça doit. Hein? Explique-nous ça.
Devoir, ben, peut-être vous l'avez déjà écouté, mais sinon les auditeurs ils vont devoir écouter la série pour en apprendre un peu plus. Mais c'est certain que je décris quelques faits qui m'est arrivé là dans mon enfance dans le documentaire, mais c'est sûr que ouais, ça a été une enfance atypique, si on peut dire. Il n'y a rien de pareil que la normalité, mettons.
Peut-être que pour toi, quand t'es jeune, tu penses que c'est comme ça que ça se passe dans chaque chaumière. En vieillissant, ben là, t'as un autre portrait des choses. Mais qu'est-ce que ça fait aussi dans le regard des autres? Comment ça t'a affecté, toi, dans la vie, que les gens, peut-être, puissent juger ça quand t'as rien demandé, puis c'était simplement ton père, puis tu l'aimes aussi, ton père? Là?
Mais c'est sûr que, comme tu le mentionnes, quand on est jeune, on s'en rend moins compte parce que, bon, on pense que c'est comme ça dans les autres maisons. Mais quand on commence à grandir, à se faire des amis, à aller à l'école, à aller dans la maison des amis d'école, tu réalises que, ouais, toi, chez vous, c'est pas de même, puis que t'as pas la même routine, puis que tes parents n'ont pas les mêmes comportements. Tu commences à te poser des questions, puis à comprendre certaines choses. Le regard des autres, c'est sûr que ça change, mais en fait, ce que je trouve le plus triste là-dedans, c'est plus les adultes, parce que les enfants, tes amis, tu sais, eux, ils t'aiment, puis ils ont du fun avec toi, tu sais, dans la cour d'école, ils se sont attachés à toi, fait qu'eux, c'est un regard qui est plus triste que d'autres choses, parce qu'ils peuvent plus être ton ami, ils peuvent plus te parler, fait qu'ils doivent gérer ça aussi de leur bord, parce que c'est les parents, à un certain point, quand on est jeune, qui décident de tes relations, hein, tu sais, fait que je pense que c'est plus un regard, je dirais, c'est ça, de tristesse puis de déception là qu'on avait à ce moment-là, parce que c'est sûr que après ça, en vieillissant, en devenant adolescente, ben moi, ben j'ai pris mon rôle de fille de criminelle bien à cœur, puis je l'ai assumé. Donc à ce moment-là, les gens, écoute, quand ils me regardaient, ben ils me regardaient pas avec jugement parce que il me regardait avec de la peur, peut-être un peu plus que...
Ouais, tu l'assumais de quelle façon, Laurie? T'as été attirée par le crime organisé? Tu t'es dit, hey, ça va être moi la toffe aussi de mon coin de pays?
Ouais, un peu. Ben, c'est sûr que comme j'explique dans le documentaire aussi, mon primaire s'est terminé vraiment mal. Là. J'ai été mis à la porte de mon école que j'étais depuis la maternelle. C'était ma sixième année. Là. Je finissais ma sixième année, mais... Et ça s'est terminé vraiment rapidement. Ils m'ont mis à la porte. Il a fallu que je change d'école pour la dernière moitié de l'année. Fait que là, ça a été vraiment une grosse perturbation pour moi. Changer d'école, changer d'amis, perdre mes repères. Là, après ça, on a été... c'est l'école secondaire. Fait que là, rentrer à l'école secondaire, j'étais à l'école privée. On payait pour être là, donc on ne pouvait pas me mettre à la porte. Là, écoute, je suis rentrée à l'école comme un teint, là. On peut dire ça. Il n'y a pas personne qui... Il n'y a pas personne qui va m'atteindre ou qui va me rejeter. Là.
Mais tu te protégeais.
J'avais le menton très haut et je regardais les gens en plein dans les yeux. Là. Fait que ça a été un peu l'attitude que j'ai optée à ce moment-là pour me protéger. Puis ça a bien fonctionné.
Mais c'est ça, tu te protégeais. Il y a quand même quelque chose, une petite fille là-dedans là, qui cherche sa place puis qui ne veut pas se faire piler dessus pour des raisons qui n'appartiennent pas, on dirait. Puis on peut avoir beaucoup d'empathie pour ça.
Mon père était en prison aussi à ce moment-là. C'est là, ça. Quand je suis rentrée au secondaire, mon père était en prison. Fait que c'est sûr que c'était quand même très intense. Là, moi, je visitais mon père en prison après l'école. Puis c'était des moments assez difficiles, mais j'essayais vraiment de dissocier la maison à l'école. Tu sais, quand j'allais à l'école, je pense que ça me sauvait un peu aussi. Là. Tu sais, c'est ça. Je réalise ça là, tu sais, avec le documentaire, ça ne nous arrive pas. Souvent, je trouve, dans la vie quotidienne, je sais pas si vous faites ça, là, mais d'aller replonger un peu dans vos souvenirs d'enfance. Là. La vie va vite. Je pense pas qu'on prend le temps de faire une rétrospection de manière quotidienne, mais avec ce projet-là, puis aussi mon père qui est parti l'année passée, j'ai vraiment replongé beaucoup là-dedans, puis j'ai réalisé vraiment beaucoup de choses dans mes comportements, dans certains patterns que j'avais. C'est un beau cadeau que je me suis fait au bout de la ligne, parce que c'est ça, j'ai compris, j'ai fait des réalisations pas mal, puis à l'école secondaire, d'avoir beaucoup d'amis, puis de m'associer avec différentes personnes, là, ça m'a comme sauver un peu parce que je me créais des petits bonheurs quotidiens. Puis j'avais des belles amitiés. Fait qu'à la maison, c'était difficile. Mais à l'école, puis avec mes amis, j'ai réussi à me créer des petits bonheurs quotidiens qui m'ont aidé à traverser ça. Là.
Même si ton père est en prison, comment tu t'es sorti de cette violence-là que tu avais dans toi? Puis comment tu as fait pour pas chavirer vers le crime organisé?
Ouais, c'est une bonne question. Je le sais pas. C'est dur à dire. Je pense que à un certain point où j'ai passé proche, mais au fond de moi, ça a jamais été là. Je pense que ça a jamais fait partie de moi. Ça a jamais été le rêve que je chérissais. T'sais, moi, très jeune, je disais que j'allais être la première à partir de la maison, que j'allais partir pour la grande ville. C'est vite tombé dans mon discours, ça. Fait que dans ma tête, on dirait que c'était déjà clair que j'allais partir de la maison familiale, puis que j'allais me refaire une vie ailleurs. Fait que je pense que c'est une graine que j'ai semée jeune, puis que OK, j'ai fait j'ai été vers des relations un peu plus malsaines, mais jamais vraiment longtemps, parce qu'on dirait que mon focus était vraiment à me fonder un avenir plus lumineux, plus sain.
Laurie, comment est-ce qu'on peut arriver à comprendre à travers toi, puis ce que tu vas nous dire? Dans le phénomène de, tu sais, en ce moment, il y en a plein là, du monde qui rentre dans le crime organisé de plus en plus jeune, puis il y a des parents qui font comme, pourquoi mon jeune est rendu là-dedans? C'est quoi les influences autour d'eux? Puis qui sont déchirés entre, voyons, ils martyrisent du monde, ils font mal à du monde, ils peuvent tuer du monde, mais c'est mon fils, puis je l'aime. Tu sais, toi, dans le cas contraire, c'était ton père, mais c'était encore là des liens familiaux. Qu'est-ce qu'on comprend pas qu'on devrait comprendre, nous qui vivons pas cette réalité-là?
Je suis pas certaine de comprendre ta question.
Parce que des fois, il y a des gens qui vont vous juger, tu sais, d'aimer, mettons, votre prochain quand ils commettent l'irréparable ou ils font du mal à d'autres.
Oui. Mais un parent, un enfant, tu sais, on en a juste un, là. Fait que moi, dans mon cas, mon père, tu sais, j'en avais juste un. Fait que j'avais bien beau le renier ou m'en aller dans la grosse colère ou dans la haine, ça m'aurait apporté quoi à moi? Mm-hmm. Ça m'aurait rien apporté, ça n'aurait rien changé. Fait que, tu sais, je l'ai supporté comme j'ai pu, mais je me suis protégée quand même là-dedans. Puis c'est dur à dire. Je pense qu'on contrôle pas l'amour inconditionnel qu'on a envers un père. Mais c'est ça, chose certaine, si j'ai un conseil à donner pour les gens qui hésitent à prendre des choix, à faire un choix, tu sais, s'il va dans le crime organisé ou s'il veut tremper dans certaines affaires louches, là, moi, je dirais là, que le plus beau cadeau qu'on peut pas se faire là, en tant qu'adulte, là, c'est le soir quand on se couche, là, ben, c'est de s'endormir. Mmh. Quand tu es dans le crime organisé ou que tu baignes dans des situations louches, là, tu te couches le soir et tu dors pas. Je confirme que mon père, il n'avait pas des belles nuits de sommeil.
Non,
ça, ben, ça peut convaincre les gens. Il n'y a rien de mieux que se coucher le soir et s'endormir les deux yeux fermés en 5 minutes.
Ça, je fais
pas de cadeau-là.
Je suis tellement d'accord avec toi. Hey Laurie, en terminant, qui es-tu en tant qu'adulte et où on peut voir le documentaire?
Qui je suis? Hey, wow, hey, je suis une femme très heureuse. Je veux dire, oui, j'ai des tristesses, j'ai perdu mon père, j'ai vécu des deuils, je suis encore en train de faire bien de la rétrospection par rapport à ça, mais je suis heureuse, j'ai une belle vie, je fais du sport. D'ailleurs, on va peut-être se voir au demi de Lévis. Je vais être là, sur le parcours.
Wow, félicitations.
Je fais des médias sociaux, j'ai des beaux projets aussi personnels qui verront le jour bientôt. Fait que on peut me suivre sur les réseaux sociaux, on peut voir le documentaire sur Crave. Puis je suis active, c'est ça, je suis active autant sur les médias sociaux que dans ma communauté, puis à travers le sport.
À Québec.
Donc, j'invite les gens à regarder le documentaire sur Crave, puis à m'écrire pour les commentaires. Si vous me voyez en personne aussi, n'hésitez jamais à venir vers moi, puis à me dire ce que vous en pensez, ça fait toujours très plaisir.
Laurie Doucette est un excellent modèle pour notre société. Félicitations pour ton très beau parcours atypique, puis au plaisir de se croiser dimanche au demi-marathon de Lévis.
Hey, merci à vous autres de l'invitation.
Cool, salut!
Merci.
Bye-bye.
Laurie Doucet, fille de Steve Leby Doucet, une figure marquante du crime organisé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une histoire invraisemblable, une histoire inspirante.
Ça doit tellement être déchirant pour vrai de se dire... Moi, je l'aime, mon père m'a rien fait.
Ben
puis
oui.
Il m'a donné de l'amour, puis il a fait ce qu'il a pu.
Exactement.
Des fois, il y en a qui tombent dans la criminalité parce qu'ils veulent s'en sortir, puis pour eux, c'est le chemin facile. Il y a un criminel qui m'avait dit, un ancien criminel qui m'avait dit au Mexique, dans un cartel, quand j'étais allée au Mexique, il y avait un chauffeur de taxi qui, lui, en était sorti, puis il m'avait dit, je m'en suis sorti parce que tout ce que ça m'amène comme stress, puis d'être toujours sur le qui-vive, puis la paranoïa, puis d'avoir peur pour ma famille, puis de tout le temps devoir quelque chose à quelqu'un, c'est beaucoup plus cher payé que l'argent que tu fais dans le crime.
C'est clair.
Puis ça, on n'a pas assez de témoignages de gens qui s'en sont sortis. Je fais un clin d'œil à l'émission Famille des criminels aussi, avec Annie Soleil-Proto, puis Félix Séguin, qui a parcouru comme ça là, une couple de personnes, dont la fille de Mom Boucher. Super intéressant. Ça revient tout le temps au lien familial.
Vraiment à suivre. Dans quelques instants, je vous ai gardé une petite surprise sportive pour terminer l'émission. On en jase. On en jase. Juste... Oh, Pascal CV, c'est ce soir. C'est ce soir le sixième match entre le Canadien et le Lightning.
Elle est
de
où la
Tampa
folie des
Bay?
Canadiens? J'ai quasiment le goût que les gens qui nous écoutent dans leur auto klaxonnent à l'instant même, mais je me dis, pognez pas une contravention, mais il y a quelque chose dans la ville encore aujourd'hui.
J'ai un petit cadeau pour nos auditeurs. Un résumé des cinq premiers matchs. Ça part de là.
Suzuki entre par le centre, va s'installer. La passe est pour Hatsune. Hatsune, la remise. Slavkovski, le tir et le but! Le héros du match numéro 1, Juraj Slafkovski.
Est-ce qu'on pourrait limiter les dégâts? Monzer va avancer. Monzer, le tir à but! JJ Monzer! Et l'erreur de Doc donne le but gagnant en prolongation du Lightning.
Venir, Texier, zigzag, revient derrière pour Hatsune.
Kucherov premier derrière à Monzer. De retour à Kucherov. Le tir à but! Oh, la rondelle a dévié sur Egol. Egol encore lui. Deuxième du match. Sixième de la série.
Gallagher justement cherche à revenir. Ce sera Perry qui perd. Newhook entre. Newhook. Le tir à rondelle qui rate. Le retour.
Rien d'autre que bon match, guys.
Amusez-vous.
Bon week-end.
Soyez prudents.
Amusez-vous. Soyez prudents. Ayez du fun. Profitez de ces moments-là. On se reparle lundi, Pascal, c'est vrai?
Oui, sans faute.
Le retour de Gravel, tu es à l'instant même. Bon week-end.
Salut!